Mais non, mais je te jure, je suis pas couché à 1h du mat parce que je faisais du poker. Enfin, non, si, mais c'est pas du poker avec du vrai argent. Non, mais tu comprendrais pas, j'ai juste besoin de ma dose, en fait. Bref, vous écoutez l'épisode 65 de Coop et Canap, le podcast qui, promis, hein, on en fait juste une petite d'air. Salut à tous, salut à tous!
Et salut!
Ça fait plaisir, bienvenue dans cet épisode 65 de Coop et Canap! Déjà, est-ce que ça va les copains?
Oui!
Ouais, ben moi aussi ça va et je vais commencer par vous saluer. Salut Vincent!
Salut!
Désolé, t'étais en train de boire. Salut John!
Salut Nico!
Et salut Will!
Salut Nico, salut tout le monde!
Et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode placé sous le signe du poker, hein, sous le signe du all-in, sous le signe du grosse blinde.
Texas Hold'em.
Texas Hold'em. Bref, un épisode dans lequel on va bien gaulerie, mais on va gaulerie aussi grâce à notre partenaire Gringotts. Si vous en avez marre de ces banques traditionnelles, moi j'ai encore la caisse d'épargne qui est venue pour me casser la gueule l'autre jour et j'en ai trop marre. Ben voilà, si vous en avez marre de ces banques traditionnelles, eh ben vous avez qu'à aller chez Gringotts. Tout votre argent qui sera mis dans cette banque aura pour vocation à aider des projets à haute valeur environnementale. Il y a un produit en plus de compte épargne avec des bons taux de rémunération. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez ouvrir votre compte, vous y allez. Vous avez en plus le droit à une petite carte bleue en bois de cerisier extraordinaire et vous utilisez le code parrainage CANAP. Les copains, pour ce nouvel épisode, ce que je vous propose, c'est que je vous parle du sommaire dans un premier temps. Mais oui, vous l'avez constaté, je suis en train d'essayer de le retrouver puisque je l'ai fermé pour une raison que j'ignore. Waouh. On le fera à la fin, mais on va commencer. vous connaissez la maison, hein, par un round de news. Un test de tomaturge. Alors, rien à voir avec la sauce tomate, si je dis pas de bêtises.
Non. Après, je pourrais faire des références, mais...
Ah bah, c'est gentil, c'est gentil.
Je ferai ça en live.
On est en train de raccrocher les wagons.
Et le test de Balatro, auquel on a tous joué. On fera, bien sûr, notre hit parade, hein, notre désormais traditionnel hit parade, et on se concentrera sur l'année 2011, ce coup-ci. 2011, va y avoir bagarre, hein. Va y avoir bagarre, je vous le dis tout de suite. Jusqu'à présent, on a été dans les clous. Là, 2011, ça va être compliqué. Et les rubriques habituelles, bien sûr, dans le viseur. Je peux pas, j'ai piscine avant de vous laisser pour 2 semaines sans nous. Mais est-ce que c'est vraiment 2 semaines sans nous quand il y a déjà, si on met tous les épisodes bout à bout, 6 jours de contenu? Non, vous pouvez tout réécouter. Il n'y a pas de problème. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode 65?
Ciao.
Oui.
Eh ben, c'est quoi? On n'a qu'à le faire. Et on va commencer en parlant de deux annonces qui ont été faites. La première, c'est Gridfall 2, John.
Oui, vous vous souvenez à l'épisode, je sais plus quoi, en 2019, on avait
ouais,
joué à Gridfall.
Ouais,
c'est, avec
jeune.
Joris, on y avait joué. Toi, tu y avais joué, t'avais pas du tout
J'avais
aimé.
J'avais pas du tout aimé.
Joris, on avait pas mal joué. On avait plutôt aimé, sans dire que c'était le jeu du siècle, quoi, mais c'était un action RPG d'un studio français, Spiders. Mm. Et en fait, c'est un jeu qui se passe dans un monde de fantasy, mais sur base d'un peu un style d'Europe du 17e, 18e siècle, tu vois. Et où, en gros, on incarnait un colon qui
qui a attrapé le cancer, ouais. Lui a enlevé la prostate.
Et ouais, forcément. Hein.
Galère comme jeu.
Colon... C'est pas le plus dur à pitcher de cet épisode.
Un colon qui débarquait sur une île qu'il venait de découvrir, en fait. Et au même moment, en fait, sur le continent originel, il y a une maladie mortelle qui venait de se déclarer, qui se répandait. Et voilà, il cherchait peut-être sur cette île le remède, et qui, surtout, il y avait plein de créatures et plein de mystères sur cette île. Donc c'était plutôt chouette, pas un excellent RPG.
Vraiment un double, ce qu'on appelle
un double A, voilà. Mais j'avais passé un bon moment parce qu'il y avait une bonne ambiance, des bonnes créatures, tout ça. Et là, ils ont annoncé une suite qui se déroule avant le 1, où en fait là, on inverse le point de vue. En fait, on joue un des natifs de cette île qui, lui, se fait enlever par les colons et qui essaie de s'échapper.
D'accord.
Voilà. En fait, moi, je suis content de ce genre de petits jeux, on va dire, enfin, de moyens jeux qui ont, vu leurs moyens, ils ont, d'avance, tu sais qu'ils ont des gros défauts.
Ouais. Oui, c'est vrai, t'arrives là.
Mais ils ont un truc touchant, tu vois.
Ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est vrai. Mais en plus, ce qui est bien de, enfin, ce jeu qui était un peu quand même cassé, qui était quand même, tu vois, s'il y a un 2, quelque part, ils peuvent corriger des erreurs. Ouais. Ça peut être une vraie très bonne surprise. Donc pourquoi pas, hein.
C'est ça, regarde Helldiver, par exemple, tu vois.
Ouais.
Ou même les The Witcher, hein, quand tu penses. The Witcher. Bah, même The Witcher. C'est passé sur des bases. Ok, mais un peu cassé, et qui ont évolué vers des bonnes choses.
Ouais, tout à fait. À voir donc, et ça sort quand ?
Je crois qu'ils font un accès anticipé.
Ouais.
Dans l'été. Donc je pense que, ils vont, à mon avis, ils se sont dit, regardez, ça a marché pour Baldur's Gate 3, pourquoi pas avec nous ?
Eh ben, écoute,
pas la même.
Ah. On y jouera en slip. William, toi, tu vas nous parler d'un autre jeu. Alors pareil, bon courage pour le pitcher.
Ah oui.
Un peu moins de colons, beaucoup plus de Game Boy. C'est Screenbound.
Screenbound, vous l'avez peut-être vu passer dans votre fil Twitter. En fait, on s'est déjà tous demandé à quoi ressemblerait le monde des Mario quand tu jouais sur ton Mario en 2D. Mais à quoi il ressemblerait en 3D ce monde, parce qu'il marche juste tout droit sur des trucs qui sautent. Ben c'est un peu ce qui se passe dans Screenbound. Dans Screenbound, vous jouez un personnage dans un jeu de plateforme 3D, un peu classique, tu sautes de plateforme, mais en même temps vous regardez avec une Game Boy ce qui se passe dans votre monde à la vue de côté de la même plateforme. C'est-à-dire que quand tu avances. Mais en gros, sur ta Game Boy, tu te balades sur la droite, sur ton jeu de plateforme. Mais en plus, il y a des monstres sur lesquels tu dois sauter, mais que tu ne vois pas dans ton monde. Ils sont sur la Game Boy. Donc
C'est l'air complexe.
Il faut que tu regardes un peu comme les jeux où tu devais regarder l'écran de l'autre pour voir où c'est. C'est un peu un ça, il faut que tu regardes ta Game Boy pour voir où.
Et pourquoi tu vois pas ? Parce que la Game Boy, elle prend un bon quart de l'écran en plein centre et tu peux pas la bouger. Donc, c'est-à-dire que les choses que tu ne vois pas devant toi, c'est parce qu'en fait, tu les vois dans la Game Boy en 2D. Je trouve ça, franchement, moi, j'ai vu le
style. Moi, ça me met des poils. Hein.
Ah ouais, moi aussi, j'adore.
Ah, j'ai vu ce truc, j'ai fait, ah, ça a l'air trop bien.
Tu sais quoi ? Il y a un peu la vibe Viewfinder. Tu sais, un peu cette vibe.
Il y a un petit côté puzzle où toi sur la Game Boy tu vas pas du tout avancer, mais en fait c'est que dire tu prends de la profondeur en 3D, tu vas aller à d'autres endroits, donc il y a plein de trucs que tu vois en 2D,
mais Defender, du coup.
Il y a une ou deux semaines quand j'ai vu un des premiers tweets des devs qui font ça, je crois qu'ils sont deux ou trois, mais ils disaient nous on bosse là-dessus, on espère que ça attirera du monde. Je pense qu'on a fait le premier jeu 5D au monde.
Ouais, c'est ce qu'ils disaient, 3D plus 2D.
Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ok, un flex de dev encore.
Ça y ressemble un peu.
Ouais, c'est ça. Donc c'est fait par trois petits développeurs, il n'y a pas de date de sortie, mais juste le principe, hein, ça fait beaucoup parler.
Mais grave, et vous pouvez le wishlist, hein, ça s'appelle Screenbound, et on le sait, hein, la meilleure façon de faire connaître les jeux, c'est à son petit niveau. Si ça vous plaît, c'est de wishlister.
Ah bah que
oh bah merde.
Je voulais aider Nico, faut le wishlister.
Ouais, wishlistez-moi, please. Maintenant je vais vous raconter une histoire, moi. Alors c'est pas vraiment une news, c'est quelque chose qui s'est passé récemment, mais c'est une petite histoire sympathique de la Team 0%. Est-ce que vous connaissez la Team 0%?
Non.
C'est normal. Je sais pas si vous souvenez de Super Mario Maker. C'est un jeu qui permet de faire et de partager des niveaux de Mario en 2D. Le premier opus était sorti sur Wii U, qui se souvient, petit ange parti trop tôt, et le second est donc sur Switch. Tous les niveaux de Super Mario Maker sont donc en ligne et assujettis nécessairement au fait que les serveurs soient maintenus en vie. Seulement, les jours des serveurs des jeux Wii U sont comptés parce que la Wii U a éteint ses serveurs le 8 avril. Donc, depuis le 8 avril, il n'est plus possible de jouer au niveau en ligne de Super Mario Maker. Un compte à rebours, donc ces derniers mois, a démarré et des joueurs se sont mis en tête de se dire si les serveurs s'arrêtent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer tous les niveaux au moins une fois. Sacré tâche, ils ont commencé à 80 000 niveaux.
Combien ?
Il restait 80 000 niveaux.
Combien ?
Terminer 80 000.
Et ils sont trois dans la team.
Ouais. Il y a vraiment qu'on rien à foutre.
Donc le 18 juillet 2023, donc quand ils ont commencé à faire un suivi assez exhaustif, il restait encore 33 800 niveaux à terminer. Niveaux jusqu'alors donc terminés par personne, si ce n'est la personne qui a uploadé.
Ah oui, ok, donc. Non, 80 000 à terminer ou il y avait 80 000 niveaux?
En fait, ils ont commencé l'aventure. Il restait 80 000 niveaux à terminer.
D'accord. Ils ont quand même fait déjà 50 000, quoi. Ouais.
Ils en avaient déjà fait 50 000. Quand le 18 juillet, ils ont commencé à, entre guillemets, médiatiser leur effort, à commencer à partager sur Twitter leurs avancements, etc. Les jours passent et le nombre de joueurs qui rejoignent l'aventure donc augmente. Hein. Super Mario Maker jouit encore d'une communauté assez importante de jour en jour, si bien qu'en octobre, trois mois après le début de la médiatisation, il y a 200 niveaux par jour qui sont tombés. Ça nous mène pas si loin du 8 avril, puisque ça nous mène en prévisionnel, on va dire, au 12 février. D'accord ? Si bien qu'à 100 jours de l'échéance, il ne restait plus que 8800 niveaux qui restaient à terminer.
Sauf que c'est des niveaux trop durs.
Voilà. Le problème, c'est que les niveaux sont de plus en plus compliqués. Et le rythme commence à baisser. Et 100 jours de l'échéance, on n'est plus qu'à 100 niveaux par jour qui sont faits. La deadline prévisionnelle est donc prévue pour fin février, et plus le 8 février. Il y a de plus en plus de joueurs, bien sûr, mais il y a de moins en moins de niveaux potentiellement complétés par jour. Le 15 mars, finalement, l'avant-dernier niveau de Super Mario Maker, intitulé Final Dance, est terminé. Donc, le 15 mars, à 3 semaines de l'échéance, il ne reste plus que Trimming the Herbs, le boss final de Super Mario Maker à battre. Seulement, voilà, le 15 mars, c'est pas ils s'y mettent le 15 mars. Il y a déjà eu plus de 100 000 tentatives pour battre le niveau qui est toujours invaincu. C'est vraiment le boss final de Super Mario Maker. Passer celui-là, c'est bon. Le jeu est terminé et il peut mourir tranquille. Les jours passent, personne n'arrive à battre ce foutu niveau et la date du 8 avril approche à grands pas. Alors, le problème, c'est que l'histoire est belle jusqu'à présent. Elle aurait pu bien se terminer. Le problème, c'est qu'on apprend, en fait, que ce niveau, Trimming the Herb, ne sera finalement jamais battu pour une simple et bonne raison. Le niveau a été uploadé en utilisant un hack de la Wii U et ne peut donc virtuellement pas être complété
par un humain. Ah, il
n'a jamais
été fini par,
un humain.
Parce que tu dois le finir pour
ouais,
le valider.
Ouais, tu dois le finir pour l'uploader. Ah, ouais. Voilà. Donc, il ne sera jamais fini par un humain. L'auteur du niveau publie sur le Discord de la Team 0% qu'il a uploadé en utilisant des outils de speedrun. Cependant, l'aventure a quand même permis à la communauté de terminer plus de 80 000 niveaux restants sur, à la base quand même, 8 millions de niveaux.
Hein. Oui.
Ah, non, oui.
Donc, il restait 80 000 niveaux à la toute fin qui n'avaient jamais été terminés.
J'étais en train de dire, pourquoi il n'y a pas une team qui s'est mise à créer plein de niveaux?
Parce que je crois que depuis un petit moment, on peut plus en uploader,
ah,
en fait.
Okay,
tu vois, c'est vraiment juste les serveurs en consultation.
Donc, Team 0%, pas vraiment. Mais Team
alors,
0,000125,
que...
je viens de calculer.
Ah, bah, merci. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a un mec qui l'a terminé en utilisant un hackant, en disant, non, bah, attends, on va pas se faire emmerder par, voilà, c'est ça. Donc, la Team 0% n'a plus de raison d'être. Et donc, c'est, en fait, finalement, le 15 mars, hein, la date où, le 100% du jeu a été réalisé. Donc, à seulement 3 semaines de la fin. La Team 0% officie quand même d'ores et déjà sur Super Mario Maker 2. Sauf que là, il y a au moins 3 fois plus de niveaux. Donc, 3 fois plus de niveaux non terminés. Mais il y a toujours des serveurs, ils ont de l'avance, etc. Mais au moins, ils se sont réunis pour se dire, le jour où ils coupent Mario Maker 2, on sera là, on sera prêt, et je serai très curieux de suivre le rush final de Super Mario Maker 2. Comment ?
Trop marrant.
Bah ouais, c'est rigolo.
La communauté qui se dit,
tu sais quoi, on va le finir, ce compte jeu. Voilà, c'est pas vraiment une news, mais c'était
méta,
une histoire que j'ai trouvé rigolo récemment. Ouais.
Tu racontes moins bien que The Great Review, mais c'est pas mal quand même.
Ouais. Z2, Vincent.
Tu veux de la transition?
Voilà, ta transition. Ah oui, je l'ai fait moins bien que The Great Review. Hein.
Alors,
désolé. Hein.
J'ai trouvé une anecdote plutôt sympa. Alors, ça sera moins bien raconté encore. une anecdote plutôt sympa sur Z2 qui répondra ici à une question qu'on se pose toujours.
Oui.
En tout cas, William et moi. Est-ce que Z2, c'est pas finalement juste un DLC de Zelda.
Oui, d'accord, ok. On remet les pieds là-dedans.
Et donc voilà, ça fait... Parce que bon, nous, on en blague, mais on représente 50% des gens ici à dire que c'est un DLC. Et il y a quand même un consensus où il y a beaucoup de gens qui disent...
C'est un DLC. Tout à fait, non mais c'est vrai.
Et du coup, il y a eu une Game Developer Conference où il y a 3 développeurs de Zelda 2. Hein, Takuhiro Dota, Takahiro Takayama et Junya Osada qui ont partagé des coulisses sur la création de Tears of the Kingdom. Et ils ont souligné la complexité de créer un jeu comme celui-ci, notamment en mettant en avant les 2 éléments fondamentaux hérités de Breath of the Wild. Mmh. Donc, un vaste monde ouvert et un gameplay expansif et interactif.
Ouais.
C'est-à-dire que au plus on joue, au plus on peut créer, et en fait le gameplay s'amplifie par lui-même, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils expliquent que la mécanique centrale de fusion d'objets pour créer de nouvelles solutions a été particulièrement ardue à développer.
Newton.
Les développeurs ont dû faire face à d'innombrables défis techniques, illustrés notamment par un clip de jeu précoce où le monde s'effondrait littéralement sous leurs pieds quand tu créais trop de bazar, quoi. Tu vois.
Ah wow. Eh oui, eh oui.
Et malgré ces difficultés, l'équipe a persisté en faisant du monde de Tears of the Kingdom un environnement entièrement régi par la physique et une approche différente de son prédécesseur. Donc, en fait, ils ont dit non, c'est quand même fondamentalement différent d'un point de vue technologique.
Ouais,
donc,
mais c'est pas d'accord, moi je suis d'accord.
Mais même au niveau philosophie du jeu, enfin je le trouve
ah, oui, tout à fait.
Différent. Tu vois. Même
ouais.
Parfois je me disais ah ce côté-là je préférais le 1.
Ouais,
même si après je me dis ah mais j'aime bien cette nouvelle liberté du 2. Enfin c'est un peu bizarre mais.
Bah c'est une nouvelle approche. Mais dans une même vision.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Voilà.
C'est ça. Ouais.
Et il y a une anecdote rigolote là où c'est genre le responsable du développement à un moment donné, les gens ils disaient quand tu crées des trucs, ça fait exploser des trucs à l'autre bout, etc. Notamment tout autour de ce système de craft. Et il a fini par dire non, mais on s'en fout. Finissez le jeu s'il vous plaît. Si on corrige tous les petits bugs un par un, on finira jamais le jeu, tu vois.
Ouais.
Et après à la toute fin ils ont fini, mais vraiment il y a un moment donné ils s'en sortaient plus quoi. Vraiment.
D'accord,
ils,
ouais, ils avaient
à
trop
chaque
de...
fois les mécaniques qu'ils mettaient en place cassaient le jeu quoi. Donc ils étaient obligés de revoir tout quand même.
Ah ouais, putain, bah, c'est sympa.
Donc voilà, ça y est, la question est enfin répondue. C'est pas un simple DLC, ils ont dû créer des nouveaux trucs quand même.
Bah oui, bah quand
même.
Ils
ont dû créer le DLC quoi.
Ok, bon. Moi je suis convaincu, William, pas de cœur.
Ils ont dû graver la galette au début, enfin. La cartouche.
Ouais. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ce petit round de news. On va maintenant passer au jeu auquel on a joué. C'est John qui va démarrer avec The Thaumaturge.
Petite ambiance.
Oh, Nissan wow. Game.
Et non, parce qu'on n'est pas dans la même ambiance. On est plutôt dans l'ambiance polonaise.
Non, alors, on dirait pas avec la musique. Hein,
Tu t'y connais en musique polonaise, peut-être.
Pas du tout, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment des a priori.
En fait, juste mettre un point déjà sur la musique du jeu est plutôt pas mal. Je l'aime bien, l'ambiance dans le jeu, elle enveloppe bien le tout parce que pour toute l'ambiance qu'il y a. Et parfois, il y a des sonorités que tu peux retrouver un peu dans The Witcher. Parce que The Witcher, c'est un studio polonais et il y a toute la mythologie un peu slave derrière qui, donc, je pense que ça joue beaucoup. Et des fois, il y a même des sonorités de la BO de The Last of Us. Pas là.
Ah, oui.
Mais des fois, il y a presque une guitare sèche que ça. Et je dis, putain, mais je suis en train de jouer à The Last of Us ou quoi? Bref, non, mais j'aime beaucoup la musique.
C'est quoi le jeu alors?
Alors, c'est un jeu développé par un studio polonais, donc, qui s'appelle Full Story. Personne ne le connaît forcément parce qu'avant ça ils ont fait qu'un seul jeu qui n'a pas trop fait parler de lui. Je crois qu'il s'appelait Seven le jeu. Bon bref voilà. Ça, mais il faut juste savoir que le boss du tuyau c'est un ancien de CD Projekt.
Ah oui d'accord.
Qui a bossé sur The Witcher 2 et 3. Ce même studio Full Story bosse aujourd'hui avec CD Projekt sur le remake de The Witcher 1.
Ah oui c'est vrai qu'il y a ça dans les tuyaux. Ouais.
Donc voilà. Il y a pas longtemps il n'existait pas mais en fait voilà il est assez récent comme studio et ils ont des ambitions tu vois. Et là The Thaumaturge en fait c'est un RPG à vue isométrique voilà vue du dessus avec beaucoup de narration hein.
Ouais, évidemment.
Ouais on y est hein. Mais il y a quand même pas mal de combats aussi et des combats au tour par tour. On y reviendra enfin. The Thaumaturge déjà un Thaumaturge c'est quoi? Ça permet de savoir un peu c'est quoi le fond du jeu. Littéralement, c'est-à-dire un faiseur de miracles. C'est un vrai mot qui existe, hein, c'est plutôt lié à la religion en général. C'est un faiseur de miracles. C'est quelqu'un, et dans le jeu, c'est plutôt quelqu'un qui a des dons surnaturels. Et en fait, c'est quelqu'un qui...
Anisson Algaib.
Ouais, c'est ça, Anisson Algaib. Mais pas loin, c'est quelqu'un qui a une faille. Et il en a une, Paul Atreides, il a une belle faille... Non, ici c'est quelqu'un qui a une faille, en gros un défaut, souvent que c'est lié à une émotion, par exemple ça peut être la peur, ou là notre héros c'est la fierté. Et en fait au fur et à mesure de sa vie, cette faille elle va être nourrie par, si c'est la peur, plus t'auras peur dans ta vie et plus ça va nourrir cette faille. Et en fait les thaumaturges, eux ils ont le don en plus de que cette faille attire des créatures, une créature surnaturelle appelée un salutor. Mmh. Là, dans le jeu, c'est beaucoup des créatures qui sont basées sur des créatures existantes du folklore slave ou germanique. Ou même, il y a même un djinn, donc ça, c'est plus le folklore arabe. Il y a ça. Et ça lui donne des dons supplémentaires à ce thaumaturge qui peut, en fait, capturer ces créatures pour les asservir un peu et les avoir. Il n'y a que lui qui les voit. Tu vois, c'est vraiment des créatures éthérées, on appelle ça. Mais voilà. Et donc, l'histoire. On est début 1900. On joue un certain Victor, un thaumaturge, donc. Lui faisait partie de la bourgeoisie polonaise, mais il s'est fait bannir par son père de chez lui parce qu'il a fait une énorme connerie. Voilà. Et Victor, en fait, comme je disais, il a une faille de fierté. Et en fait, bah, déjà, il est un thaumaturge, donc il a réussi, avec la maturité, à avoir son propre salutor, sa propre créature qui est attachée à lui. Mais sauf que à cause de sa fierté et durant ses voyages en Europe, il s'est dit vas-y, je suis un thaumaturge, j'ai des dons, je vais essayer d'avoir un deuxième salutor.
Ouais.
Ce qui veut dire et ce qui dans le jeu ils disent, enfin dans ce monde-là ils disent non mais c'est impossible, enfin personne n'a deuxième salutor, c'est déjà surpuissant d'en avoir qu'un. Donc lui il a essayé, trop d'ego, il a pas réussi, il s'en est retrouvé genre il a dépéri quoi, tellement ça l'a usé. Ça c'est la base, le pitch d'entrée. En fait, toi, tu démarres le jeu, tu es à la recherche d'un guérisseur qui va essayer de recréer ton lien avec ton salutor, te remettre sur pied. C'est des ressorts. Ce guérisseur, c'est nul autre que Rasputin.
Ah !
Voilà. Mais Rasputin,
pré-mordu tsar.
Ouais, pré-célébrité, il est proche des tsars russes et tout ça. C'est vraiment au début, il a juste sa réputation. C'est un guérisseur, d'accord, c'est un faiseur de miracles et tout ça. Grâce à lui, tu retrouves ton lien et tout ça et t'es remis sur pied. Et au même moment, en fait, t'apprends la mort de ton père, tu rentres à Varsovie. Parce que tout le jeu, il va se passer en fait à Varsovie, dans les différents quartiers de Varsovie. Et c'est surtout...
Ça mérite d'être original, hein, des jeux...
Voilà, déjà, c'est un plot que t'as jamais, en fait. et surtout, c'est sur fond d'enquête un peu de... pourquoi mon père est mort ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que, voilà. Et son père, c'était un thaumaturge aussi assez puissant. Et il dit, il y a sûrement un truc autour de ça. Et je, voilà. Et surtout, il veut retrouver un livre spécial. C'était le livre de thaumaturgie de son père. Qui c'est le seul truc qu'il lui a légué. Parce que vu que son père l'a renié, il a dit, je peux quand même te léguer ça. C'est le seul truc sur lequel tu seras peut-être compétent, tu vois.
Ouais.
Voilà. Donc le jeu, c'est ça le plot, et il y a surtout le contexte historique qui est assez intéressant, parce que un truc assez inconnu, 1900 en Pologne,
personne ne connaît.
Ouais. J'ai découvert qu'en fait, la Pologne, à l'époque, était sous occupation de l'Empire russe, l'Empire du tsar Nicolas II, III, je ne sais plus lequel. Et surtout, c'est genre, il n'y a que des grèves ouvrières, le parti socialiste qui essaie de monter un peu, genre pour reprendre, pour dire bon, la Russie vous dégagez, nous on veut un peu reprendre l'indépendance de la Russie, de la Pologne, parce qu'on devrait se sentir polonais et pas germano-russe polonais, on sait plus qui on est. C'est intéressant parce que c'est sur ce fond là en fait, t'as tout le fond un peu historique dans le jeu, dans la narration, plus
les éléments un peu fantastiques, quoi.
Donc ce jeu, comme je dis, c'est un RPG, donc c'est à dire qu'il y a toute la base du RPG. T'as les quêtes, t'as des dialogues qui entraînent des choix narratifs qui ont des impacts plus tard. T'as pas mal d'exploration, mais t'as aucun équipement par contre. T'as pas d'objets à looter, t'as pas des trucs comme ça, t'as pas d'équipement. Son seul équipement qu'il a, c'est un livre qui lui permet un peu de faire sa magie, on va dire. Mais voilà, t'as un arbre de talent.
D'accord.
Un truc divisé en quatre branches, voilà, dans lequel tu mets des points quand tu gagnes de l'expérience, rien de. Et des combats, autant pour toi. Voilà. Surtout très narratif, comme je l'ai dit.
Parce que bon, le gameplay est sympa quand même.
Non, oui. Attends, après, je parlais du gameplay, sur comment ça se déroule, mais voilà, c'est narratif parce qu'il y a beaucoup de dialogues, à choix, souvent moraux, en fait. C'est, voilà, ça peut être un peu débile où t'arrives dans une ruelle et en fait, en parlant de grève d'ouvriers, t'as les ouvriers qui sont en train de mettre le réseau d'égouts de Varsovie et ils sont en grève. Je dis, non, mais c'est bon, on travaille dans des conditions de mer. En plus, on peut plus boire de la vodka pendant qu'on bosse. Réel, hein, c'est dans le jeu, ça. et le mec, le sous-traitant du truc, il dit, non, mais le premier que je vois boire de la vodka, il se fait virer, tu vois. Donc là, et toi, tu peux arriver et en fait prendre parti un peu et dire, soit tu vas aider le boss, soit tu vas aider les ouvriers.
Ouais, d'accord.
C'est un exemple banal, mais ça y est, dans une quête annexe, vraiment sous-quête, mais qui est ce genre de truc que tu peux faire des choix qui auront après des conséquences plus tard, d'accord, surtout dans la quête principale. Et en fait, souvent, dans les choix, ta faille de fierté, des fois, dans des choix de dialogue, ils vont te dire, ce dialogue-là, par contre, quand tu vas le choisir, parce qu'en fait, c'est Victor, il a son ego, en fait, tu vois. Donc, il va répondre, en fait, un peu de manière condescendante, des fois, tu vois. Si on lui pose une question, il va faire, c'est ça, ça va, c'est évident, tu vois. Et en fait, il dit, si tu fais ça, ça nourrit ta faille de fierté. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, dans les choix de dialogue, des fois, ils disent, ben ce choix-là, tu n'y as pas accès. Donc déjà, tu ne vois pas ce que c'était le choix. Mm-hmm. Ils disent parce que tu as une trop grosse fierté. Tu vois. Au fur et à mesure, tu la nourris, ta fierté. Okay. Ou à l'inverse, ils disent qu'en fait, si tu ne fais pas trop preuve d'ego, ben, tu as des choix de dialogue qui apparaissent. Okay.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et qui ont des conséquences.
Une sorte d'alignement, mais
voilà.
Ben, différent.
C'est ça, c'est un peu
quoi.
L'alignement, ouais. En fait. Tu vois, et qui ont une conséquence plus tard, en fait, ouais. Sur des... Tu n'as pas des gros embranchements dans le jeu, mais sur des petites fins de certaines ouais. Quêtes. Ou, voilà. Et globalement, le jeu, c'est tu vas te balader dans les quartiers de Varsovie. En suivant, en fait, tu as ton sens de thaumaturge. C'est un peu comme dans The Witcher, tu avais ton sens de sorceleur qui te permettait de voir des traces, des choses comme ça. Ou dans n'importe quel jeu où ils disent, bon, quand on veut faire ça un peu RP, on dit que le personnage, il a un sens un peu surnaturel.
Ouais, voilà.
Là, c'est ça. C'est une sorte de... Ça highlight en rouge, ou ça met une traînée rouge vers là où tu dois aller. Mmh. Et c'est comme ça qu'en fait, en te baladant dans des quartiers, des fois, tu trouves des objets. Il va trouver un objet, il va dire « Ah, tiens, cet objet, je ressens une sorte de... » Lui, en fait, tout est basé un peu sur les émotions qu'il ressent sur les objets. Ouais. Il dit « Tiens, cet objet, il est empli de peur. » Et là, en fait, il détecte une trace sur cet objet. Plus loin, il en trouve un autre. Il fait « Ah, je reconnais, c'est la même trace que sur le premier. Tiens, là, c'est des papiers d'identité. Ah, ben tiens, c'est... » Et en fait, comme ça, il va relier plusieurs trucs qu'il a découverts. Et il fait une conclusion. Il dit « Ah, ben tiens, c'est-à-dire qu'il y a... tel machin, telle personne à tel endroit qui habite, il a une peur spéciale, je vais aller voir pourquoi.
Ouais, d'accord, ouais.
Et là, en faisant ça, potentiellement, en fait, tu vas ouvrir une quête qui, bah, en fait, en allant vers cette personne, tu vas découvrir que lui-même, il a une faille, par exemple la faille de peur. Et en fait, cette personne, c'est pas un thaumaturge, mais à cause de sa faille qui est nourrie à force d'événements, il a subi un traumatisme, il a perdu sa mère, sa sœur, elle s'est fait assassiner mm-hmm. devant lui, bah, ça nourrit. Et en fait, il y a un salutor, en fait, qui a été attiré dans le quartier par cette faille, en fait, par toutes les peurs qui traînent.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, bah, toi, t'as aussi un but, c'était ton majeur. Et en plus de ça, c'est bien, ça colle bien avec le plot principal, le début du jeu, c'est de dire, bah, lui, en fait, il a quand même envie d'avoir plusieurs salutors à ses pieds.
C'est comme des Pokémon.
C'est littéralement des Pokémon, hein.
Ah bah
non,
voilà,
c'est
ouais.
Vraiment des Pokémon. Parce que, en fait... Donc, t'as le côté, je parlais un peu, genre, tu fais de l'explo, tu découvres des trucs. Au début, ils vendaient ça comme, ils disaient, ouais, il y aura un jeu d'enquête à choix Moro, machin. Non, c'est pas un jeu d'enquête du tout. Même s'il était mis en avant comme ça, c'est un jeu d'enquête autant que The Witcher 3 est un jeu d'enquête.
Ouais, d'accord. Ouais.
C'est, tu découvres des trucs, il fait ses conclusions, tu dis, oh, ok, c'est bon, ça avance à la suite de la quête. Basta. Mais disons, vu les ambitions du studio, c'est pas un gros studio, tu dis, heureusement qu'ils ont fait que ça, sinon ça aurait,
ouais,
été,
ça aurait été calamiteux. Ouais.
Ça aurait été calamiteux. T'es pas Return of the Obradin quand tu veux, tu vois. Et voilà. Mais à côté de ça, avancer dans les enquêtes, ça donne de l'XP et ça te permet d'avancer dans tes arbres de compétences. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu avances dans les dialogues, dans les combats, j'en parle plus tard, mais dans les combats ou dans d'autres trucs, il faut que tu aies des compétences avancées dans ces quatre branches,
ouais,
qui sont divisées en quatre trucs, qui s'appellent l'esprit, cœur, parole, acte. Bon, ouais, c'est leur truc à eux. Et chaque élément correspond à un type de salutor, comme les Pokémon.
Effectivement.
Voilà, en gagnant de l'expérience, tu avances dans les branches, qui en fait, dans les branches, tu débloques des... soit des compétences qui vont être utiles au combat. En fait, tous les trucs que tu vas débloquer,
ouais,
ça va surtout être utile ensuite pour les combats, en fait. Mmh. Ou alors, ça donne plus de points dans une branche qui sont utiles dans les dialogues, mais c'est surtout les trucs que tu vas débloquer principalement, c'est des compétences de combat ou des sortes de talents supplémentaires que tu vas pouvoir accrocher. Enfin, en fait, tu vas pouvoir un peu customiser tes compétences de combat en fonction de petits talents supplémentaires que tu débloques. Par exemple, le système de combat, en fait, c'est un combat au tour par tour, assez classique, où en fait, t'as un écran un peu à la Pokémon.
Pokémon, oui.
Non, mais vraiment, au final, tu te balades dans la ville, et des fois, c'est ça, tu te balades dans la ville.
Tu vas parler aux
gardes. T'as trois gardes qui te disent. T'as un dialogue qui se déclenche avec trois gardes.
Eh, hey, enfin, toi, passe pas par cette route. Et t'envoies son salutor.
Non,
dessus.
Mais c'est ça, c'est ça. Il y a un il se tourne à 90 devant toi. Il fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, tu vois, t'as trois policiers qui passent. Ils disent, on t'a pas dit que les thaumaturges, on aimait pas ça à Varsovie. Et là, ils disent, toi, tu vas voir où on va te renvoyer, tu vois. Et là, bon, ils engagent un combat. Pourquoi pas? Hein, ils te tabassent dessus. Et le combat, c'est ça. C'est vraiment comme dans Pokémon.
D'accord,
t'as ton personnage au premier plan. Les mecs en face. Et en fait, tu vois qu'il y a... Donc, c'est comme dans un RPG. Si ils ont une barre de points de vie. Si tu descends la point de vie, leur point de vie, t'as gagné le combat.
Ouais, bien sûr.
Jusqu'ici, c'est simple. Mais toi, t'as l'avantage, en fait, de jouer Victor, qui a ses points et son petit pistolet pour attaquer. Et un salutor aussi,
ouais,
comme un Pokémon.
Comme
donc,
un...
en fait, c'est... Contrairement à Pokémon, où c'est que des Pokémon qui combattent.
Bien sûr.
Là c'est un peu... T'as un... un tour supplémentaire de jeu qui est le Salutor qui lui peut pas être attaqué, ouais. Mais lui il peut faire des choses, tu vois. Et en fait t'as plusieurs types de compétences de combat, t'as autant des, parce que comme c'est du tour par tour, tu dois doser. En fait tu vois, t'as une ligne de temps avec,
oui, d'accord,
tu sais,
ouais,
qui va attaquer quand,
ouais,
et à quel tour,
ouais.
Donc toi tu peux planifier tes actions en fonction de ça. Tu vas dire, bah tiens, là en fait je vais plutôt faire une attaque rapide qui fait peut-être moins de dégâts, mais au moins je sais que j'attaque d'entrée. Pareil pour les salutors qui ont des, mmh, attaques plus ou moins longues, t'as des attaques rapides planifiées sur plusieurs tours, des attaques un peu qui font plus des dégâts sur la durée, oui, genre saignement, tu vois. T'en as d'autres qui, parce qu'il y a aussi une sorte de barre de concentration, ils appellent ça, et en fait si t'arrives à faire avec tes compétences qui font baisser la concentration, si tu la fais descendre à zéro, mmh, la concentration d'un ennemi, dit qu'il est, voilà, qu'il est épuisé, qu'il est affaibli, et en fait là tu peux balancer une sorte d'attaque ultime, tu vois, genre qui va faire bam, genre limite il le one shot, ça fait,
oui,
des trucs qui fait des dégâts à tout le monde. Enfin c'est pas un, t'es pas sur un FF où ça fait des trucs dans tous les sens, mais ça fait juste des, voilà,
ouais, des plus longs coups,
se tapent,
ouais,
avec leurs poings quand même, tu vois.
Oui, bien sûr.
Mais ouais, et le Salutor c'est pareil, sauf que le Salutor ils ont plus des, c'est un peu, ils ont des, chacun comme ils appartiennent à des éléments différents, ils ont un peu des sortes de builds particulier. Il y en a un qui va être plus orienté sur faire que des dégâts sur la durée,
ouais.
D'autres c'est un golem, il va
tanker,
tank, il fait des gros dégâts d'un coup même s'il met plus de
temps,
plus de tours, chose comme ça. D'autres c'est plus la concentration, d'autres c'est le soin, chose comme ça. Et et voilà. Et en fait ce qui est intéressant dans les combats, c'est que pour les rendre plus ou moins variés, parce qu'en fait tu tombes souvent sur le même ennemi, les
bah
mêmes,
oui,
ennemis, c'est des flics qui ont pas envie que tu sois là, c'est des voyous qui tombent dessus dans la rue, c'est des mecs à qui t'as déclenché un combat dans un bar, c'est bon, clairement c'est des humains, tu vois,
ouais.
t'es dans un monde surnaturel grâce au Salutor, mais t'es pas sur un monde avec des monstres en fait. Mais il reste assez varié parce que chaque combat va être différent dans le sens où tu commences un combat et tu vois que chaque ennemi a une résistance en fait. Et en fait, il y en a un, potentiellement, ils vont dire, bah, celui-là, tu ne peux pas appliquer de saignement. L'autre, il a moins 80% de dégâts reçus. L'autre, il se fait du soin à chaque,
ouais,
tour. Tu dis, merde. Et en fait, chaque type de résistance, tu peux lui opposer un type de Salutor. Et donc, en fait, en attaquant avec ton Salutor, tu réduis sa résistance. Et là, tu peux, bam, 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 tu commences à taper, tu vois. Et c'est intéressant parce que tu vas vraiment anticiper sur, ok, bah, à ce tour-là, je vais balancer ce Salutor qui va faire tomber cette résistance, mmh, qui va appliquer tel truc. Moi, derrière, je vais pouvoir mettre ça parce qu'en fait, sachant que quand le mec, il a des saignements, moi, ma compétence là, que j'ai buildé un peu, elle dit que ça fait plus 100% de dégâts quand le mec est sous saignement.
Oui, donc en fait, c'est un peu quand même une
en
dimension
fait,
tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes les tacticals, en fait.
En fait, t'as une dimension... Non, mais
vraiment,
ouais, mais c'est un tactical light. En fait, c'est ça qui,
oui, c'est ça
cool,
qui est bien aussi
que...
pour des gens, justement, qui kiffent pas forcément,
ouais,
trop.
Parce qu'en fait, c'est pas un tactical sur tout le jeu. C'est un tactical sur les combats. Et en fait, au début de chaque combat, tu vois les mecs que t'as en face, mmh, et tu peux rebuild ton mec,
ouais, ouais,
en disant, bah, en fait, j'ai... Au fur et à mesure, tu gagnes de plus en plus de compétences d'attaque,
ouais,
différentes. Et pour chaque compétence d'attaque, bah, tu vas dire, bah, sur cette compétence, je mets cette perce qui met du saignement. Sur celle-là, je fais des trucs qui font plus 100% dégâts. Voilà. Et en fait, de temps en temps... donc voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que les combats peuvent être variés. Et comment on capture un Salutor? Parce qu'en fait, le but, c'est aussi...
Ah bah oui.
Il y en a 8 dans le jeu. Bah en
une
fait, c'est que t'as souvent un.
Une salut ball.
Ouais, une salut ball, exactement. Et une fois que t'as la salut ball, elle bouge un peu légèrement.
Ouais, voilà.
Et une fois, elle fait. Et en fait, non, mais c'est que souvent, c'est comme je disais, t'as une quête qui va t'amener vers ça.
Ah bah oui, bien sûr.
Et après, en essayant de provoquer l'ouverture de la faille qui crée ça, en fait, ça va attirer le Salutor. Et là, tu le confrontes. Tu vas-y, let's go, on se tabasse. Mm. Et en fait, lui, il va invoquer des ombres, en fait, qui sont celles qui nourrissent un peu son pouvoir. Et toi, tu tabasses les ombres, en fait.
D'accord.
Par vague, t'as plusieurs vagues de monstres. Donc, ça fait un combat qui est assez long. Et à la fin, une fois que tu l'as tabassé, tu l'apprivoises. Mais pour l'apprivoiser pleinement, il faut aller voir Professeur Chen.
Mais oui, bien sûr.
Qui est en fait Rasputin et qui, grâce à ses dons, il va un peu te dire attends, tiens, tu fais ça, et là tu l'apprivoises et à la fin, t'as tes 8 Salutors. Un seul problème dans ce jeu, c'est que pour avancer dans l'histoire, tu peux tracer l'histoire en ligne droite et arriver à la fin et tu auras eu que 4 Salutors. Parce que l'histoire,
d'accord,
principale t'en donne que 4.
D'accord.
Et les autres, c'est des quêtes secondaires, mmh, voire même quêtes annexes. Quand je dis annexes, c'est genre, t'es allé fouiller au fin fond d'une ruelle de merde d'un, mmh, quartier de Varsovie, où en fait, en utilisant ton don de thaumaturge, il a trouvé qu'il y avait un livre par terre qui dit « Ah, il y a un truc bizarre qui se passe à tel endroit, il y a des événements chelous. » si tu l'as pas fait ça, ce salutor, tu passes à côté.
D'accord.
Moi, j'ai un problème de FOMO, donc je fais tous les recoins de toute la map. Donc, je les ai tous trouvés. Mais j'ai écouté des tests ou j'ai lu des tests où les mecs disaient je suis arrivé à la fin du jeu et je galérais en difficulté moyenne parce que j'avais pas accès à certains niveaux de compétences qui me permettaient de faciliter les combats.
Ouais, ouais.
Et je le comprends parce qu'en fait, les combats, franchement, j'en ai recommencé plein des fois parce que certains sont durs, faut les planifier, faut réarranger ses compétences et tout pour vraiment gérer bien ses combats. Et voilà. Et si t'as pas les bons Pokémon, bah t'es dans la merde. Surtout que les 4 Pokémon d'annexe, ils sont plus puissants que les autres.
Ouais.
Et ils te font des diversités de combats qui sont cool. Donc voilà. Globalement, le jeu, c'est une sorte de point and click, mi-RPG, vraiment. C'est comme ça que vous pouvez le.
Ouais, bah, toi, c'est bien, du coup. Enfin, je veux dire,
ouais, c'est ça, parce qu'il y a une bonne narration avec un contexte que j'ai. Plutôt intéressant.
Ouais.
J'ai bien aimé. L'intrigue est pas mal aussi. L'intrigue est vraiment cool, globalement. Au début, j'étais intrigué, j'aimais bien le jeu. Puis après, j'ai enchaîné des heures où je me disais, je sais pas si je vais continuer.
D'accord.
Là, j'ai enchaîné sur des quêtes plus intéressantes, plus de salutaires. Mais je me suis dit, non, en fait, je vais le terminer, il est cool. Et voilà. Les combats peuvent être redondants, mais grâce à. Comme ils sont assez stratégiques, ça passe.
D'accord.
Genre, c'est bien. L'exploration, pas ouf. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le jeu ne dit pas que tu veux vraiment explorer. En fait, toi, tu fais tes quêtes. Mais en fait, si tu ne fais pas l'exploration, tu rates des choses.
Oui.
Ça, c'est dommage, c'est très con. Mais voilà, et parce qu'il y a une bonne durée de vie. Hein. Je crois que c'est en ligne droite, je crois que c'est 10 heures. Par
D'accord.
contre, je pense que si tu voulais faire tout et donc d'avoir tous les salutors, forcément, tu fais toutes les quêtes annexes.
Ouais.
Je crois que tu en as pour une bonne vingtaine d'heures.
D'accord, oui, c'est pas mal.
Et donc voilà. C'est,
très bien. Donc ça s'appelle The Thaumaturge. C'est ça?
The Thaumaturge.
Et combien ça coûte cette affaire?
Ça coûte, je crois que c'est 35 balles.
D'accord, ouais.
Ouais, à mon avis, il va tomber en promo un jour.
Ouais, voilà, tu recommandes peut-être en promo. En termes de perf, parce que les jeux comme ça.
Pour moi, c'est pas pour tout le monde. Ouais, alors en termes de. Il est pas forcément très beau.
Ouais.
Mais il fait le taf pour un jeu où tu sens que c'est pas un gros studio. Et je l'ai fait majoritairement sur le Steam Deck et ça tournait pas mal.
Ah bah c'est bien.
C'était cool. C'est très bien manette en main en fait comme jeu.
Oui, j'imagine.
Très bien fait manette en main.
Ok, très bien.
Et voilà. Et si je voulais le résumer à nouveau, comme on dit, un plouc, il dit en gros, t'es dans un buddy cop aventure avec Rasputin et ton Pokémon zombie. En gros, c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas si je le recommande à tout le monde.
D'accord, oui, bien sûr.
C'est pas facile de le recommander parce que franchement, il peut tomber des mains très rapidement.
Oui, t'as été assez.
Ouais, je pense, c'est pas. Ça peut être niche un peu, tu vois.
D'accord.
Et
oui.
Voilà.
Ok, très bien. Ben merci beaucoup. On va maintenant passer à la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, c'est quoi ? C'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est le hit parade.
Hit parade.
Et le hit parade de 2011.
Le saxo.
Mais juste envie de m'ambiancer.
Ça n'avait pas à l'époque, hein.
Attends, on va au moins entendre le refrain.
Unite. Ah ouais.
Putain, ça fait déjà 11 ans, hein. Ça fait déjà... Non, 13 ans. Qu'est-ce que je dis? Putain, j'ai l'impression que j'écoutais ça hier.
Waouh.
Alors, Last Friday Night, hein, qui était, je crois, top 6 hein, des téléchargements en 2011, donc rendez-vous compte.
Et à l'époque, on avait quasiment pas Internet. Hein.
Ouais. Oui, c'est ça, 25 téléchargements. donc voilà, ouais, non, très
en
bon 56K. Jeu. Donc voilà, vous connaissez la rubrique, le Hit Parade, c'est tout simple. Hein, on prend tous les jeux auxquels on n'a jamais joué et on essaie de les classer. Pour le moment, on en a 8 qui sont accessibles via le Discord. Donc si vous voulez voir un petit peu les 8, il y a qu'est-ce qu'on a fait, GTA, Last of Us, Tony Hawk, bref,
Strike,
vous pouvez aller voir sur le Discord, mais en attendant, aujourd'hui on s'attaque au jeu de 2011 et la première chose qu'on peut dire c'est 2011, quelle année, hein,
on dit
assez souvent, mais c'est vrai que là il y a quand même du lourd et je vais commencer si ça vous va.
Non.
Très bien. Eh bien, Vincent, tu commences.
Non, allez. Non plus.
Bon, ben
vas-y,
John.
Nico. Non, vas-y. Voilà,
allez, à moi. Portal 2, sorti en 2011. Wow. Portal 2, c'est vraiment... Ben, n'est-ce pas, hein, un des jeux qui a vraiment fait date dans le jeu d'énigmes. Hein. C'est légendaire. D'ailleurs, John, c'est une honte hein, que tu n'y aies pas joué.
Alors, c'est incompréhensible.
Je n'arrive pas à comprendre.
On Voilà. Quand ça arrivera à moi, on parlera de cette année 2011, mais c'est, ouais, c'est ouf.
C'est incroyable. Bref, j'ai pas peur de le dire, c'est un jeu d'énigmes parfait, tout simplement. Il y a rien acheté, tout est bon dans Portal 2. C'est la suite donc de Portal, hein, qui était à la base vendu plus ou moins comme un mode de Half-Life, même si c'était un jeu à part entière. Hein, il a été vendu à part entière, mais c'était une sorte de tweak de Half-Life. Portal 2 prend de l'ampleur. Il y a plus d'énigmes et plus de mise en scène, des mises en scène beaucoup plus grandiloquentes. Le principe, c'est que vous êtes une sorte de pion de laboratoire, hein, de personne qui se réveille dans une chambre et qui va être soumis à une grosse quantité de tests. Sauf qu'à un moment donné, elle va en avoir marre et elle va vouloir s'échapper. Vous avez un portal gun pour seule arme qui peut donc créer sur des surfaces des portails dans lesquels on peut passer. Donc un portail entrée, un portail sortie. Et en gros, on peut passer de l'un à l'autre sans temps de chargement, sans rien. Techniquement, déjà... ça casse la gueule à plein de jeux de l'époque. Ouais, ouais. Hein. Le fait d'entrer avec une certaine vitesse permet de ressortir avec la même vitesse, ce qui permet aussi énormément de puzzles physiqués. C'est aussi l'une des grandes premières de Portal, c'est d'avoir des puzzles qui te permettent de jouer avec la physique.
Non, mais ça, c'était incroyable
en fait,
à l'époque.
C'est ce que j'allais dire. Tu le regardes maintenant, tu te dis, ouais, c'est un bon puzzle game, mais à l'époque, quand il est sorti, c'est...
Ah, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, le refais avec...
Non, mais
même
maintenant, il met une claque, mais je veux dire, des puzzles, on a vu maintenant. Viewfinder, tu vois, des idées un peu originales. Tu vois, maintenant, t'en as beaucoup. À l'époque, des puzzle games comme ça, avec une idée...
Moi, je pense même qu'après Portal 2, il a fallu attendre un moment avant de retrouver des idées originales dans
c'est
le
C'est là où tu vois qu'il se place comme un...
Dans les puzzle games.
Merde, comment dire, un mentor en fait de ce genre de jeu où tu dis c'est pas un Sokoban ou un truc où t'as trois énigmes où tu cliques.
Tout à fait.
C'est dire tu joues avec l'environnement en plus du puzzle, tu vois.
Et d'ailleurs Portal aussi, c'est l'un des premiers qui faisait du puzzle en FPS aussi, hein, parce que ça n'existait pas avant Portal.
Ouais, donc, on parle de Portal ou Portal 2 là?
Bon, on parle de Portal 2. Ouais, mais
on parle d'une suite.
Non, mais t'as raison. le jeu, donc, c'est aussi une vitrine technique pour le moteur physique de Valve. Non, mais
t'as rien inventé, c'était tout dans le jeu.
C'est un DLC, quoi.
Il est aussi reconnu pour ses qualités d'écriture. C'est un jeu qui est très drôle, comme le premier opus.
La fin, c'est celui avec la lune?
Non, ça c'est le 1, ça.
On plus de la fin du 2.
Je me souviens plus non plus. Mais moi, je me souviens surtout de l'ampleur du truc, tu sais, où t'avais à un moment donné, tu te baladais avec une patate. Tu sais que c'était le robot qui avait été transféré dans une pomme de terre, et tu l'amenais, et en fait, il devenait méchant. Et à la fin, tu devais faire. Mais si, c'est lui la fin.
Mais oui, c'est la fin. Ouais, c'est lui.
Tout à fait, c'est lui la fin où c'est la lune. Oui, t'as raison.
Incroyable cette fin. On peut le raconter de.
Ah, bien sûr.
Tu sortais du hangar et en fait, t'étais sur la lune.
Non, en fait. Le monstre, enfin en gros le gros robot qui contrôle tout le laboratoire et qui te fait faire cette suite de trucs là, GLaDOS
c'est le
monstre. Il te plaque au sol et il veut te tuer, et donc en gros c'est presque comme une QTE, t'as ton viseur qui est dirigé, tu vois, et en gros tu mets un portail à côté de toi et un portail sur la lune, et du coup
il se fait aspirer
par absence de gravité et il est aspiré jusqu'à la lune. Mais en fait tu te retrouves avec cette vue, donc t'as la première personne, t'es plaqué au sol, t'as le gros robot en face de toi, et juste à côté de lui, du coup, en fond, puisqu'il a éclaté le plafond de compagnie, t'as la lune, et en fait, tu n'as pas le choix, tu tires sur la lune, mais presque par défaut, quoi. Oui, et ça marche. C'est incroyable.
Le final est extraordinaire, c'est vrai. Le jeu prend beaucoup plus d'ampleur, d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que Portal 1, c'était que les 20 salles avec un petit twist à la fin, mais pas un twist énorme, mais un petit twist à la fin. Là, t'as les 20 salles de test qui sont donc vraiment les trucs en laboratoire. Et puis après, tu sors, tu vas dans les coulisses d'aperture. Rien que ça aussi.
Au moment là où t'es dans les espèces de grands dômes géants.
Et où t'es dans aperture, mais t'es dans les coulisses. C'est trop bien.
C'est plus un puzzle game, c'est devenu un jeu d'aventure, quoi, avec la mécanique.
Avec beaucoup de mécaniques puzzle, hein. Le centre, c'est le puzzle, mais
Et pareil, avec tu parlais tout à l'heure des jeux de la physique, là. Du coup, comme tu es dans des espèces d'immenses environnements, tu peux mettre des portails sur des sols qui sont très très loin.
Ouais.
Et puis après, un portail sur un mur. Et du coup, tu sautes. Et la vitesse de chute, après, est répercutée sur ta sortie dans le mur. Et du coup, tu es projeté comme ça. C'est vraiment incroyable.
Il est où?
Comme si le jeu n'était pas parfait. Attendez. Il y a même un mode 2 joueurs où chacun a son portal gun, et en plus de ça, ce n'est pas la même campagne que la campagne solo. C'est-à-dire que c'est une campagne dédiée avec des puzzles uniquement pour le 2 joueurs, qui est aussi assez longue, hein. Je pense qu'il y en a pour 2-3 heures facile. Et donc, c'est un nouveau scénario, des missions dédiées, etc. pour 2 joueurs. Alors,
on le met où, lui?
On le met où, lui? Alors moi, personnellement...
En plus, un truc qui est pas... Parce que, bon, comme on disait, hein, je l'ai jamais fait. Ouais. Et mais j'avais déjà vu des speedruns du jeu.
Ah ouais,
c'est pareil, genre les mecs, c'est taré.
Ouais, ouais,
genre, c'est ça qui est ouf, t'es dans le genre, bah, les mecs font des speedruns de puzzle game.
Enfin, oui, c'est game, vrai, je dis, ouais.
Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas, non mais c'est vrai, ouais, complètement. Alors moi, voilà, je vais vous le dire, moi, je le veux en première place.
Quoi ?
Voilà, bah, là,
jamais, j'allais dire, il est, là, il tourne autour de Rayman, pour moi.
Moi, j'ai un problème,
autour
c'est
de
que
Rayman
j'ai fait.
En cinquième, mais ça va pas la tête.
Bah, il est pas mieux que, bah, déjà, GTA, non, Last of Us, non.
Ah, mais pour moi, il est au-dessus, il est largement au-dessus de même de Tony Hawk.
Oui, Tony Hawk, allez, peut-être.
Hein ? Ah oui, bien sûr, regarde.
Sans l'avoir fait...
C'est au-dessus de Counter-Strike,
sans l'avoir fait,
si
pour,
le, mieux,
pour l'aura qu'il a, je le mettrais troisième.
Moi, je le mettrais au moins au-dessus de Tony Hawk.
Au moins au-dessus de Tony Hawk, et moi, je le mettrais au-dessus de Last of Us.
Moi aussi. Personnellement, au-dessus de Last of Us, ça me convient.
Moi, je le mets 3, il y a 2-2. Toi, tu mets...
J'aurais dit 3, après, c'est pas un scandale s'il est au-dessus de Last of Us. Hein,
moi, je le mettrais 3, et en fait, s'il faut, un jour, je le fais, je dis, putain, les gars, oh... C'est top 1.
Non, non, mais je te le dis, John, tu vas le faire.
Mais
tu
oui,
vas dire,
je vais le faire à un moment donné.
On peut le mettre
pas,
en
ouais.
deux. Ouais, parce
on
que
le met en deux.
Au-dessus de Last of Us, ça fait...
Ouais, enfin, c'est vraiment notre classement hein. à nous, hein, parce que Last of Us, en termes
c'était,
d'impact...
C'était ma question. Par exemple, on va parler d'un autre jeu après du
on
mien.
On va parler de plein.
Est-ce que c'est un classement, le classement des jeux, ou c'est notre classement?
Ah bah,
c'est notre classement. C'est genre, comment toi, tu
le mettre en deux.
Comment toi, tu le ressens?
Moi, je le mets large au-dessus de Last of Us, par exemple.
Ah bah, allez.
Allez,
deuxième Portal. Vincent?
Moi, j'ai choisi un petit jeu, je sais pas trop si vous connaissez, j'en parle pas souvent, c'est Skyrim.
C'est vrai que c'est la première fois que je t'entends prononcer ce nom.
Alors attention, je parle pas de n'importe quel Skyrim, mais bien de Skyrim sur réfrigérateur LG.
Ah oui, oui.
C'est le premier,
c'est le premier. Donc,
ouais. Donc bon, pour aller, je fais cette blague parce qu'il a été adapté sur de multiples
bien
supports.
Sûr.
Après. Mais bon, il est sorti donc en 2011, et donc c'est donc un RPG, tout ce qu'il y a de plus classique, et avec un monde ouvert dans un univers médiéval fantastique avec des dragons, des elfes, des nains, des caves, des châteaux, des pouvoirs magiques.
Beaucoup de neige.
Pas mal de neige, puisque ça se passe dans le monde, dans l'univers de Elder Scrolls, donc où il y a Morrowind, Daggerfall et tout, et Oblivion, enfin tous les tout ce que tout le monde connaît, en tout cas que
beaucoup
d'en connaissent.
Hein.
Donc on joue le Dovahkiin, qui est donc l'enfant de dragon, qui est un personnage qui peut absorber les pouvoirs des dragons qui arrivent sur cette dans cet univers, et en fait on devient de plus en plus puissant, et il y a de multiples quêtes, et à la fin on va confronter le grand dragon
jamais fini
qui... Moi j'ai fini
bah,
une fois
voilà,
200 heures, jamais fini, je crois.
Moi je pense que j'en suis à bien 400-500 heures cumulées, toutes plateformes confondues, et je l'ai fini qu'une fois. Et donc voilà, RPG on ne peut plus impactant. Ouais. Puisque précurseur du RPG à l'occidental, ou en tout cas de la popularisation du RPG à l'occidental, influence sur tous les open world, très très réputé pour le modding communautaire qui est devenu depuis ce jeu-là.
Ah ouais.
Ouais, en fait, c'est.
Surtout
ouais,
que ça continue.
Il y a un avant et un après.
Ouais, c'est ça.
Pour le modding dans le jeu vidéo, il y a un avant et un après.
Exactement. référence culturelle, des mèmes, en veux-tu, en voilà.
C'est vrai, voilà les mèmes.
Et puis. Longévité.
Ouais.
2011, je pense que la dernière version de Skyrim, elle est sortie peut-être il y a 2 ans, quoi, tu vois.
Ah oui.
Ils en sortent encore.
Mais la dernière version de Skyrim, elle sortira même dans 6 ans. Sur enfin, je veux dire, on est loin d'être au bout.
Y a pas de problème.
Donc voilà, très très gros jeu, très gros impact, en termes de RPG, etc. Moi, je le mettrais, au-dessus de Tony Hawk aussi. Voilà.
Bah moi, tu sais,
alors,
je peux même
au-dessus de Last of Us.
Moi, il y a un truc.
Moi, je le mets très haut, lui. Hein.
Alors,
imagine, hein. Pareil, c'est pour ça que 2011, année de la honte, hein,
ouais,
mais
ouais,
je
ouais.
n'ai pas joué à Skyrim. Hein, okay
ouais, ouais.
Mais tu foutais quoi en 2011?
Je jouais à WoW, mec.
Ah,
ah mais oui.
C'est ça mon problème, c'est qu'il doit avoir au moins 6 ans où j'ai fait que ça. Et ouais, d'où que j'ai pas joué à grand chose d'autre. Mais c'est vrai que Skyrim, je l'ai pas fait. Et ce qui est ouf, c'est que.
Genre, j'ai l'impression de l'avoir fait.
Non, ouais, mais c'est ça, et je me dis à chaque fois, purée, mais genre, c'est dingue, j'aimerais le faire, mais genre, ça, le monument a l'air tellement. Gros maintenant que je me dis vas-y je me lance
que
pas
ça vaut vraiment la peine,
je préfère ouais. garder l'image que j'en ai tu vois presque de me dire ça a l'air dingue
mais parce que le problème c'est que je pense que ça reste un jeu qui a un peu vieilli malgré...
oui mais alors oui,
en fait plein de mécaniques qui étaient des très bonnes idées maintenant à l'époque ouais. Ont été largement améliorées maintenant et du coup en fait quand tu le reprends tu te dis putain c'est fastidieux ça
ouais, ouais,
non
voilà.
Mais ça c'est sûr sauf qu'il a à un moment donné comme tu dis il y a un avant et un après sur plein d'aspects tu
ouais,
vois
tout à fait
et en vrai même sans l'avoir fait pour moi, il a une plus grosse aura sur plein de petits trucs. que même GTA 5.
Ouais, moi j'étais
j'arrive à le mettre au-dessus
un,
parce qu'il a un truc où les mecs,
vous
tu sais
pour le rang,
Alors imagine, j'ai pas joué mais je me dis
mais c'est même principe parce que c'est notre classement ou est-ce que c'est le classement des gens,
c'est nous qui décidons,
mais tu vois genre si son envie de mettre Skies of Arcadia en premier, on le mettrait,
mais tu vois en faisant ce classement en 2024, moi je relance plus facilement GTA 5 que Skyrim maintenant.
Oui, mais est-ce que c'est un jeu que tu lancerais aujourd'hui ou est-ce que c'est un jeu où tu dis waouh, il a quand même il a tabassé et en pas il tabasse encore aujourd'hui, mais genre sans lui il y a moyen qu'on soit pas aujourd'hui sur certains jeux qui
déjà,
sont derrière.
Déjà option 2 et option 1 je le relancerai parce qu'en fait il y a tellement de modes.
Oui, maintenant t'as les modes où
après, c'est vrai que
ça le rend ça
mais
le
même
rend...
ça le rend très beau, enfin ça le rend très beau, ça le rend agréable.
Il faut, il y a des packs 4K, il y a des trucs pour carrément changer le gameplay, changer
il y a pas longtemps il y a des mecs qui disaient regarde maintenant tu joues des ninjas, le jeu était beau et le gameplay était vif, mais un truc
même
de
dans les termes des builds, les compétences, tu pouvais vraiment ça... c'était varié, enfin bon après tu finis toujours archer stealth
tu n'as pas le choix,
vocation
en fait t'as même quand comme tu passes ton temps à t'accroupir, tu deviens forcément
très bon en
discrétion.
En stealth, ouais.
Et à moins que tu sois du genre à tout le temps courir sur les gens, tu finis par tirer à l'arc. Le mec, il est en haut d'une tour, tu lui tires à l'arc dessus.
Ouais.
Donc forcément, en fait, quoi que ce soit que ton build, tu peux ne jamais utiliser d'épée. Ouais. Mais à un moment donné, tu as utilisé des armes à distance et des discrétions. Donc en fait, tout le temps, tu seras un archi.
On le met où du coup?
Allez, je mets un dernier point, regarde. GTA 5 aujourd'hui, énorme monument, un jeu de ouf, sauf que le seul petit qu'il va faire, c'est GTA 6.
Ouais.
Ok. Skyrim, je pense à travers plein de trucs, plein de même certaines mécaniques qu'il aurait pu mettre, genre qu'il aurait pu améliorer, inventer ou genre juste remettre en avant, mais je pense qu'il a fait plein de petits et plein de RPG qu'on a eu depuis, genre t'es en pété, tu dis, mais il y en a quand même eu, tu vois.
Non, mais aussi, et par son apport culturel. Ouais, c'est-à-dire que GTA, finalement, c'est le monde normal.
Ouais.
Alors que Skyrim,
il y a un monde qui est créé.
Pour le coup, il a repris des trucs existants, il n'a rien inventé de spécial, mais il l'a tellement mis en avant que maintenant, tout le monde connaît un peu tout ça. Bon, après, il y a eu le Seigneur des Anneaux, c'est les mêmes époques, etc. Mais toute cette époque médiévale fantastique, et eh ben en fait.
L'imaginaire, c'est ça, quoi.
Et Skyrim, c'est la cristallisation de cette époque Seigneur des Anneaux, etc.
Moi, je suis chaud pour premier, moi.
Moi ça me va trop.
C'est vrai que GTA 1 en premier, ça fait trop.
GTA 5, moi je suis pas. Enfin, maintenant que je le vois là, je me dis, je préférais Portal, tu vois, c'est ce que je dis tout à l'heure.
Non, Portal non.
Mais moi je suis chaud pour mettre Skyrim. Et pourtant, vous savez que je suis pas client forcément de Bethesda et tout, mais.
Sauf
que Skyrim, c'est pas pareil.
C'était Bethesda à l'époque où.
Ouais,
c'était Skyrim quoi.
Justement, c'était Skyrim. Sauf que aujourd'hui, c'est encore Skyrim. C'est ça le problème.
Oui, c'est les seuls qui ont pas compris qu'il fallait aller plus loin.
Un peu plus loin que.
Ouais, voilà. C'est toujours le même moteur.
Eh ben premier Skyrim, très bien.
Wow.
Bravo à lui, John.
Bon, on va descendre d'une marche quand même.
L'étage.
Mais parce que effectivement, je jouais pas à grand chose à l'époque, à part 2-3 jeux sur PS3, dont Uncharted 3 en fait. Tu vois.
D'accord.
C'est pour ça que je dis, on descend bien d'une marche parce que c'est pas non plus le plus gros jeu de tous les temps. Mais à savoir donc c'est le troisième opus de la, comme dans le titre, hein, de la série Uncharted. Et donc c'est quoi Uncharted? C'est un jeu d'action
sacré morceau.
Ouais, mais c'est
ouais quand même.
Jeu d'action aventure à la troisième personne. On joue Nathan Drake, un chasseur de trésors.
Incroyablement scripté, cinématographique.
Non mais c'est ça, film. Le jeu, ça c'est un jeu film d'action aventure.
Ouais,
genre c'est en gros c'est quoi? C'est, vous avez dit Indiana Jones et Tomb Raider, bah c'est l'évolution quoi. C'est genre le truc encore plus, tu vois, parce que en plus genre même le personnage t'es genre. Mais il a vraiment, c'est vraiment ce type de personnage que tu vois dans les films d'aventure.
Ah ben complètement. Ah ben oui.
Il est cool.
Assez macho.
Et en même temps, un peu macho.
Je pense qu'il a son poids vieux.
Je pense que de nos jours, ça serait un borderline problématique.
Il a un bel ego quand même, tu vois. Voilà. Mais voilà.
Il drague des belles petites pépées.
C'est vrai en plus.
Mais il y a toute l'aventure, tu sais, genre épique. Genre le chasseur de trésors qui est à la recherche de trésors mythiques et de cités antiques, tu vois. Genre,
mais c'est vraiment Indiana Jones, quoi. Vraiment,
mais
joue Indiana Jones.
Et voilà, où il y avait tout. Exploration, des bonnes énigmes parfois, quand même,
parfois,
tu vois,
plutôt
cool, des énigmes environnementales avec les temples, tout ça.
Bon, du niveau de ce qu'on peut attendre de ce jeu.
Ouais, voilà, t'es pas dans des énigmes qui peuvent être cool comme dans un Zelda ou des trucs comme ça quand t'es dans des temples, mais voilà, pour ce genre de jeu, c'est suffisant.
C'est largement suffisant.
Des gros gunfights.
Oui, voilà, c'est ça.
Où le mec a à peu près tué Enfin, je pense que c'est la personne au monde qui a tué le plus de personnes de sa propre main, en fait, je pense. Hein,
ouais, parce
que,
tout à fait.
Je pense que c'est ça. Hein. C'est, voilà. Et donc, dans le 1, c'était quoi ? Recherche d'Eldorado. Donc, tu vois, genre, tu dis, ah, c'est épique. Dans le 2, c'était la cité de Shambhala, en Asie.
Trop bien, le 2. Qu'est-ce
Elle est trop... Bah, c'est mon préféré parce que je trouve trop beau les décors. Enfin, voilà. Et dans le 3,
dans
c'est
le
3, l'Atlantique.
C'est un Grand Prix ouvert le dimanche matin.
Ouais, oui, c'est,
c'est
ça.
C'est moins épique, mais le gars, bah, après, bon, voilà.
C'est le Super U de Saint-André-de-la-Roche. Donc...
voilà, c'est ça. Ouais,
non, c'est l'Atlantide des Sables au Yémen, donc ce qui t'emmène dans des, aussi des déserts de ouf, genre là-bas. Mais en fait, c'est surtout un jeu qui te... Tu dis, ok, repense à un jeu. Souvent, tu vas te repenser à quelques moments, des petits moments épiques. Tu vois, tu repenses à un Skyrim, tu vas sûrement repenser à pas mal de scènes que tu as vécues, des trucs à la con, tu vois, des fois, ou même quand toi, tu repenses à un Dragon Ball.
Ouais,
Uncharted, c'est plus des moments mémorables parce que c'est comme si t'avais
parce
maté un film.
Parce que c'est écrit comme ça. Ouais,
genre, et là, j'ai regardé un peu tous les niveaux qu'il y avait eu dans ce jeu et je me suis dit, ah ouais, mais c'est dans ce jeu-là qu'il y a tout cela. Et en fait, c'est parmi ceux que je me souviens le plus. Il y a un truc qui est.
Mais déjà,
alors, déjà.
La bagnole dans l'avion, là.
Oui.
La bagnole qui traverse l'avion,
c'est celui où t'es dans un avion ou en plein vol où il y a toutes les marchandises qui sont déversées. Voilà. Mais genre, en fait, le jeu, il commence déjà, tu joues Nathan Drake dans sa jeunesse. Ce qui est sympa, en fait, quand t'as fait le 1-2, et en fait, t'enchaînes sur le 3, tu fais, c'est cool, t'es bon. Ouais. C'est un petit moment, un petit peu, en plus, c'est là, ils se sont inspirés le film, qui est peut-être pas top. Je l'ai pas vu.
Ouais,
après, non, il y a un niveau où c'est un paquebot entier qui fait naufrage.
Ouais.
C'était, quand j'ai revu des vidéos, je me suis dit, putain, c'était ouf, ça. L'éjection de l'avion avec des marchandises dans tous les sens.
Voilà.
Où t'arrives finalement dans le désert de Rub Al Khali au Yémen, où genre bah tu dois retrouver ton chemin dans le désert et genre le niveau est magnifique. Enfin, ouais. Genre, et quand j'ai revu des vidéos, je me dis waouh, le jeu est pas forcément bien vieilli techniquement,
ouais.
Parce que 2011 et PS3, mais alors qu'un Uncharted 4, je pense, est toujours aussi beau.
Ah bah je l'ai fait il y a pas longtemps, 3, mais il est incroyable.
Pas terrible sur les replays, mais pourtant ça te remet les feelings. Je me dis waouh, mais c'était, et en fait je m'étais jamais dit c'est celui qui m'a donné le plus de fils sur les quatre, et pourtant en revoyant les vidéos je me dis mais en fait il y avait que des moments dingues,
que des bangers.
Mais voilà, c'est pas un des meilleurs jeux de tous les temps, mais j'adore cette série, quoi. C'est
ouais.
Juste pour ces petits trucs. Mais le 3, il n'a pas un impact.
C'est ça.
Voilà, c'est ça aussi.
Il n'a pas d'aura, il n'a pas d'impact. C'est un autre Uncharted, mais...
Et c'est très bien.
En fait,
c'est déjà très bien.
Son atout, c'est juste d'avoir mis en avant certaines scènes qui sont encore épiques aujourd'hui. Bah, tu vois, tu vas dire, tu te souviens la scène dans l'avion ? Bah oui, en fait, la scène dans l'avion, tout le monde soit l'a vue, soit y a joué. Mais c'est pas le... T'es pas dans le,
moi,
pas
je
dans
le mettrais
top, tu vois.
Entre
c'est dur.
Rayman et Path of Exile.
Ouais.
En dessous de Rayman et au-dessus de Path of Exile.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Moi, je le mettrais même en dessous de Path of Exile.
Ah ouais, carrément. Parce que t'es peut-être moins client aussi.
J'aime beaucoup.
Mais Jet Set Radio, il était bien. Hein.
Non, Jet Set Radio, non, c'est bon. Non.
En vrai.
Ça, c'est trop loin. Tout dit.
En vrai, moi, si cette année-là, les autres années, je sortirais pas d'Uncharted parce qu'il y a sûrement des plus gros jeu auquel j'ai joué. Parce que je jouais pas à ce moment-là. Mais tu vois, mais si à ce moment-là, il y avait le 2 ou le 4, après, je me battrais pour qu'il soit mieux classé. Parce que
ça serait le 2, c'est sûr qu'il était au-dessus de Path of Exile.
Le 2, parce que l'ouverture du 2, c'est quand t'es dans la neige, dans un train qui est en train de s'écrouler.
Ah oui,
C'est un des premiers jeux qui te balançait. J'ai jamais vu une scène d'ouverture.
Non, mais le truc, c'est que déjà, il arrive après le 2, malheureusement.
Et ouais, c'est un enchaînement.
En fait, là, il y a eu un crescendo entre l'un et le 2. Le 2, il était formidable. Le 3, il arrive, il est peut-être au même niveau, mais malheureusement, il arrive après. Et en plus. C'est Another Uncharted, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Ce serait la série Uncharted, bien sûr, elle serait sûrement plus haut que ça.
Jeux. Entre Jet Set et Path of Exile,
c'est difficile de se disputer quand il y a des. Ouais, quand il dit Just Facts.
Facts.
Après Path of Exile.
Après Path of Exile.
Voilà, okay. C'est ça.
Bon, William, là va y avoir un peu bagarre aussi.
Alors, le dernier, voilà, parce que est-ce que notre numéro 1 va déjà se faire détrôner ? Enfin, je parle de ça. Que dire sur Isaac, The Binding of Isaac ? Que dire sur Isaac à part que ce n'est pas une course ?
Non,
ce n'est pas une course.
Il me reste que 98 trophées.
Voilà, c'est juste le jeu qu'on a le plus joué autour de cette table en cumulé. On a essayé de faire tomber John dedans, mais sans succès. Je sais pas à combien d'heures on est. J'aurais été à 200, 200, 300.
Non, j'en suis à moins que vous. Je pense que j'en suis à 150.
Ouais, 150, 200. Voilà, on est presque
vous
à.
Vous cumulez 100 fois plus que moi, je pense.
Voilà, c'est ça. Nico, t'as combien à 200, 250
400, je pense.
400. C'est un jeu indé fait à la base par deux personnes, Florian Himsel, impossible à dire, et Edmund Macmillan, lors d'un marathon de dev.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, je savais pas.
Ouais, le truc, après, il paye pas de mine. Hein, c'est un roguelike shooter vu du dessus, un peu comme les vieux Zelda. Enfin, c'est un peu l'inspiration qu'ils ont eu au début. Mais qu'est-ce que c'est addictif. Hein, c'est un peu tout ce qu'on aime, je trouve, dans les roguelikes. C'est très dur au début. On devient de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on joue. Quand on croit qu'on a fini, il y en a encore.
C'est la progression. Il y a de contenu, elle est folle.
Quand j'ai commencé à jouer, je me rappelais avoir envoyé des messages à Nico. Putain, je suis allé jusqu'à Satan et tout. T'es allé jusqu'à Satan, toi? Alors que lui, il avait déjà fait 100 heures, tu vois.
The Binding of Isaac, on parle pas de Afterbirth.
Attention, là, c'est la version Flash. C'est le tout premier en Flash, hein.
Eh ouais.
Ah oui, il fait pas Rebirth, hein.
Les refaire.
On parle pas de celui qui est sorti là, la semaine dernière, là.
Non, mais même Rebirth. Enfin, ne serait-ce que Rebirth, celui, le premier qui était pas en Flash, voilà. Là, c'est le premier en Flash. Qui reste. Alors attention.
Ouais, parce qu'après c'est. Ouais, c'est vraiment des suites. C'est 1, 2, 3, on part du Binding of Isaac. C'est pas juste une mise à jour. Parce que c'est le même. T'achètes The Binding of Isaac. T'as After.
Non, ça c'est la version Flash. Et après t'as la suite qui est Rebirth, sur laquelle il y a eu tous les DLC. Mais ça c'est la version Flash, la toute première en 2011. On est pointu. Mais il n'empêche qu'il y avait l'ensemble des corps mécaniques, la plupart des chemins à débloquer, donc c'est-à-dire aller jusqu'à l'ange, aller jusqu'à machin. Il y avait pas, par exemple, les chemins, exactement. Mais il y avait les gros ennemis. Il y avait très peu de personnages. Il y avait 8, je crois. Enfin, très peu. tu dis il y a 8 personnages, c'est très peu. Oui, bah en même temps, maintenant il y en a 36, forcément. mais c'est la toute première.
Ah oui, mais alors autant le Binding of Isaac, là, celui qu'on joue, je le mets en top 1.
Oui. Autant celui-là,
je le mets.
C'est la base. Il a quand même un accès.
Non, mais on ne sait pas. Et je pense que très peu de gens le connaissaient. Il y avait peut-être juste.
Tu veux changer? Tu veux prendre Terraria peut-être?
Non. C'est juste que je vais pas le mettre à cet endroit-là.
Martin, il jouait à celui-là.
Oui, Martin jouait à celui-là. Exactement. Il jouait à celui du Flash.
Au même titre. Il y avait Super Meat Boy aussi, non? Par les mêmes.
Oui.
Ah ouais, c'est les mêmes. Il sortit avant Super Meat Boy.
Ah, il est sorti avant.
Ah oui, il est sorti avant.
Ah ouais, bah alors, du coup, c'est le vieux.
Ah oui, c'est le vieux.
Au même titre qu'un Counter-Strike, normalement, il va se retrouver loin dans le classement parce que ça, c'est pas forcément 1.6, c'est pas forcément CSGO, mais ça reste genre la base qui, sans lui, t'as pas plein de jeux derrière.
Le truc, c'est que ce Isaac-là...
Sans lui, t'as pas
de roguelike, en fait. Ouais.
Est-ce que GTA 1 va être mieux classé que GTA 5? C'est le Binding of Isaac.
C'était l'argument massu.
Le Binding of Isaac auquel on joue, il sera dans les top 2.
Oui.
Celui-là, j'y ai jamais touché. Je l'ai vu, il était dégueulasse. C'est juste Martin qui jouait, personne le connaissait.
Oui, c'est vrai.
Pour moi, il est en dessous de Jet Set Radio.
À ce point.
Je suis désolé, personne. Tu connais, tu as joué à celui-là?
Oui, j'ai joué, bien sûr.
C'est marrant parce que je le mets.
Je rechange mon argument. Il y a que Nico qui a joué à ce jeu-là. Nous, on le connaissait pas.
Moi, je le mets.
Mettrais avant Jet Set, ou voire même avant Passé Exact. Mais
non.
Par l'aura,
parce que. Il est pas là. Lui, il y a pas de jeu.
Il est pas là. Tu pourras pas classer les autres.
Non, parce que c'est pas lui qui a inspiré plein de.
Si.
Si vous voulez, on le met au-dessus de Jet Set, quoi, Max.
Allez, deal. Moi, je l'aurais mis au-dessus de Pass of Exile, voilà. Pour au-dessus de Jet Set.
Alors, attendez, il va se passer un truc, c'est que.
Ouais, du coup.
On a mis Uncharted 3, donc en dessous de Pass of Exile.
Quitte à le mettre au-dessus, moi, je le mettrais au-dessus de. En dessous de Uncharted.
Oui, en dessous de Uncharted.
Ouais, pareil. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc, il y aura Uncharted 3 en dessous de Pass of Exile. Et en dessous, il y a Isaac.
Je pensais qu'on parlait du vrai Isaac, là.
Ça doit être 2014-2015, un truc comme ça, le dernier Isaac. On y arrivera.
On en reparlera quand il sortira.
Lui, par contre, moi, je suis dans ta team pour le mettre tout en haut.
Oui.
Tout en haut. Ok, très bien. Eh bien, écoute, donc du coup, on a mis en premier top 1,
Skyrim.
Top 3... si top je dis pas 3, de conneries, Portal 2.
Et top, alors là, ça devient
Faut faire les calculs, 6, 7, 8. Donc top 8, Uncharted 3 et top 9, Isaac. Isaac Vanille, comme on l'appelle. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va maintenant passer à la suite des émissions et écoutez à la suite de l'émission. Et écoutez-moi cette musique. Écoutez-moi cette musique. Vous aussi, vous avez envie de la couper. C'est normal, c'est la musique de Balatro et on en parle tout de suite.
Pourquoi il y a le son de...
TFX, là. TFX.
Non, ça y est. Coupez-moi cette merde.
Allez, Balatro. Balatro, c'est quoi? C'est compliqué à expliquer, voilà.
Oui,
ce que
voilà, exactement.
Si t'as écouté
Adrien Méniel. Pour moi, Méniel, c'est l'un des plus durs.
Déjà, oui. J'ai tenté un truc et puis après, j'en étais à 8 lignes. Je me dis, je vais faire des bullet points. Donc Balatro, donc c'est un jeu, pour qu'on place, hein, donc c'est un jeu vidéo indépendant de type deck building et roguelike, s'inspirant du poker.
Voilà.
Ouais. Donc c'est fait par Local Tunk. Édité par Playstack, c'est sorti le 20 février de cette année, ça coûte un petit peu moins de 15 euros.
Ouais, il y a un ou deux gars dessus, je crois que c'est vraiment très très peu de personnes.
Ouais. Alors, jeu relativement simple dans son concept. Attention, j'attaque les bullet points.
Non mais en plus, c'est un peu comme quand j'explique un jeu de société, tu sais, tout le monde se dit c'est impossible à jouer à ta merde là, et en fait quand on y joue on se dit ah oui non mais en fait ça va.
Donc, le joueur a un jeu de 52 cartes classiques. Pour commencer,
oui.
Ça se joue à main après main. On a une main de 8 cartes et on a 4 opportunités ainsi que 4. On a 4 opportunités de jouer une main de poker, type paire, suite, etc. etc. Et 4 opportunités de défausser jusqu'à 5 cartes dans ta main. Et ces cartes sont défaussées et après on te remplit la main jusqu'à ce que tu en aies 8. Donc voilà, il faut construire les paires. Donc le jeu se déroule en 8 hantes, ça correspond à des mondes avec chacun 3 niveaux, avec les niveaux sont appelés petite blinde, grosse blinde et boss. L'objectif étant de faire un score supérieur à celui requis par le niveau dans lequel on est, en jouant des mains de poker, donc toujours les fameuses mains de poker paire, double paire, suite, couleur, etc. Chaque victoire de niveau rapporte de l'argent et cet argent est en fait un collectif qui va nous permettre d'améliorer notre jeu de cartes pour continuer dans les différents mondes et les différentes hantes. Pour chaque niveau, le score se calcule de manière un peu spéciale. On a un score de jetons qui est déterminé par le type de main, toujours la même chose, paire, couleur, etc. Et un multiplicateur de ce nombre de jetons qui vient de quelle main on a joué. Si on joue une paire, c'est moins bien que si on joue une double paire, etc. etc. Et donc ça donne un score. Et l'objectif de chaque niveau, c'est que à chaque main jouée, nos scores vont se cumuler, c'est de battre un certain palier. Typiquement, au premier niveau, il faut faire plus de 300 points, 600, etc.
Voilà.
Ça, c'est le concept initial dans lequel on est balancé dès la première partie. Et à partir de là, arrivent toutes les feintes qui créent la dynamique du jeu, à savoir, à chaque blinde battue, on a un magasin qui apparaît dans lequel on pourra acheter plein de choses. À savoir, des boosters, type vraiment booster de jeux de cartes à collectionner, Pokémon, etc., dans lequel il va y avoir des cartes à rajouter à notre jeu. Du genre des rois de carreaux, etc. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir plus de 50
plein de rois, quoi.
Voilà. Mais il peut y avoir des rois qui vont avoir un multiplicateur supplémentaire. Donc, si on fait une paire avec ce roi multiplicateur, du coup, au lieu d'avoir le multiplicateur classique de la paire, on va avoir un plus grand multiplicateur. Voilà. Ou alors des cartes qu'il ne faut pas jouer. Et si on les a dans la main au moment où on joue quelque chose, elles vont savoir ajouter des trucs, etc. Donc voilà, ça rajoute plein d'effets comme ça. Plus des cartes à effet qu'on peut aussi acheter qui vont permettre de transformer des cartes de pique à carreaux ou d'autres effets comme ça. On peut aussi acheter des jokers. Et là...
Là, ça commence à partir. Non,
ouais. Là, ça commence en cacahuète.
Et
les jokers, en fait, on a en plus de notre main, on a 5 emplacements de jokers. Et chaque joker va avoir un effet.
Sachant que des jokers, il y en a centaines. Enfin, je ne sais pas combien.
Voilà. C'est vraiment très nombreux. Et il y a plein de types de jokers. Il va y avoir des jokers relativement simples dans leur utilisation. C'est-à-dire que si on a ce joker, on a tous nos multiplicateurs, ils auront plus 4.
Voilà, oui.
Donc, c'est-à-dire qu'on joue une paire, elle vaut 40 points et elle a un multiplicateur de 2, maintenant elle a un multiplicateur de 6. Après, il va y avoir des jokers où toutes les cartes jouées et qui comptent des points paires vont avoir leur double de jetons. Et voilà. Et là, à partir de là, j'ai tout dit. On commence à avoir des espèces de catégories.
Si tu joues des piques, ça te donne plus de points.
Voilà. Si ta main la plus jouée est jouée à la première fois, alors elle a une chance, elle a une chance sur trois de monter de niveau. Ouais. Et donc, oui, parce que en plus de tout ça,
oui.
y a une, chaque partie en fait a, conserve une information sur les mains, en l'occurrence leur niveau. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le niveau des mains qui donnent des points. Les paires sont, enfin, les paires, double paires, brelan, flush, etc. sont tous niveau 1 au début. Et après, on peut augmenter leur niveau, ce qui va augmenter leur valeur en jetons, mais aussi leur multiplicateur. Et donc, en fait, en essayant comme ça de construire son jeu pour orienter vers certains types de, bah, de manières de gagner, en l'occurrence, par exemple, je vais tout faire pour avoir énormément de paires dans mon jeu, et monter énormément le niveau de ma main paire. Et ben bah, du coup, on va pouvoir jouer que des paires, et on va faire que gagner.
Comme t'expliquais au début, enfin le truc le plus simple au début, c'est genre les couleurs. Il y a des cartes qui transforment ces deux cartes en cœurs, et du coup, tu vas essayer de transformer tout ton deck jusqu'à ce que t'aies que des cœurs, et comme ça, à chaque tour, tu vas jouer que des couleurs, que des couleurs.
Tu fais que des couleurs. Et du coup, là, après, commence à se mettre des mécanismes de snowball où, si, bah, par exemple, comme je disais, voilà, t'as un joker, a tendance à faire que ta main la plus jouée arrive plus souvent choses comme ça. Et du coup, en fait, ça se met en marche, Et en fait, du coup, le jeu provoque un effet de dopamine et de bonheur quand on est dans ce snowball, etc. où vraiment tout s'accélère et on arrive avec des
casinos scores. Avec les chiffres qui montent.
On joue des mains de poker, on est assez content quand on fait des quatre flash royales, des trucs comme ça, c'est toujours assez rigolo. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Arrive un boss, et les boss, ils ont des effets un peu spéciaux, qui peuvent être relativement simples. Par exemple, les cartes pique ne comptent plus.
C'est pas grave, t'en as pas.
Voilà, bon, bah tu jouais cœur, ça tombe bien. Ouais. Mais si tu jouais tout à pique, t'avais transformé l'intégralité de ton jeu en carte pique, bah t'es mort.
Le pire, c'est, vous pouvez jouer une main qu'une seule fois. Ouais, voilà. Et voilà, t'as fait un deck. Ah. Full couleur.
Ouais, voilà.
T'en joues une.
C'est fini.
Bon, bah, j'ai pas gagné.
Bon, bah, game suivante. Voilà.
Ouais. Ouais. Non, alors, trouve le pire, c'est toutes vos cartes sont face cachée.
Oui. Oui, mais ça, t'as, ouais.
Si bah, si tu joues pas un truc assez bidon. Ouais, non, mais attends,
non, mais tu peux les retourner quand même. Enfin,
non, il y a des fois, tu peux pas les. Enfin, t'es mort, quoi, tu vois. Donc, ouais. Et en fait, c'est ça qui est vraiment trop bien dans ce jeu, c'est que. Tout marche jusqu'à ce que d'un coup ça marche plus. Mmh. Et du coup, c'est un côté. J'y étais presque.
Ouais, pam, complètement.
On s'en relance une. Et comme en plus, à chaque fois, on débloque des trucs. Et après, il y a des nouveaux jeux qui commencent. Au début, on commence avec le jeu rouge. Après, on va voir le jeu jaune qui va rajouter. Au début, on commence avec plus de jetons ou plus d'argent ou plus comme ça. Et en fait, c'est exponentiel. Et c'est trop bien, quoi.
Ouais, mais j'ai pas réussi à passer le cap où, you know, ils ont fait des runs pétés avec des chiffres scandaleux. J'ai réussi à finir des runs. J'ai pas réussi à passer ce.
Bah, déjà, j'ai réussi une fois une run.
Ouais, mais c'est des setups qu'il faut mettre en place.
Ouais, enfin, c'est ça. Oui, mais je sais pas, je joue autant que là.
Je regarde,
il est pas plus intelligent que moi, le streamer.
La dernière fois sur le Discord, il y en a un qui met c'est bon, j'ai enfin réussi à faire la run pété, où il a fait ça, avec des trucs des
mais
exposants.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et en fait, le truc, c'est un truc de dingue. Oui, il a les étoiles qui se sont alignées. C'était le truc, genre, il avait un build où il pouvait jouer. Il avait des bonus sur les dames et en plus chaque dame qu'il avait buildée, elles avaient le saut rouge, je crois, qui
oui mais je sais pas comment ils arrivaient en avoir autant où le mec
il avait déclenché deux fois le coup de chaque dame, il jouait que des cinq dames et en fait ça faisait clac 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 clac.
J'ai juste été frustré, moi, de trop compliqué de
je trouve que c'est assez compliqué à emballer une partie.
C'est pas alors déjà
gagner, moi je trouve que c'est relativement compliqué.
Exactement.
Pour moi, voilà, ça m'est jamais arrivé d'exploser la partie. Et même les fois où je me suis senti fort,
il y a un moment donné,
le boss, il arrive, il m'attrape par derrière la tête, il dit paf.
Même quand t'as une run complètement pétée, tu dis bon, je vais essayer le mode infini. Il y en a, c'est vraiment une courbe logarithmique.
Le mode infini, c'est que quand on a battu le dernier boss, donc l'ant 8, après on passe au mode infini où là, en fait, on considère la game gagnée et c'est vraiment voir jusqu'où on tient, quoi.
Ouais. Mais là, ça part les...
Mais d'ailleurs, enfin, c'est ça que je trouve particulièrement élégant d'ailleurs dans le jeu, c'est que tu vois que c'est un jeu qui brille un peu par sa simplicité et par l'efficacité de son gameplay. C'est-à-dire que, en fait, c'est tellement efficace qu'à un moment donné, quand justement toi t'as réussi à finir une partie, que t'as gagné, que tu dis ah bien mon build, il te dit bah maintenant tu peux jouer pour rien, tu vois. Et genre, tu vois, par exemple dans Isaac, quand t'arrives en fin de game, des fois il te dit voulez-vous faire un tour gratuit? Bah non, en fait je m'en fous, tu vois, j'ai envie de relancer, tu vois. Mais là non, là tu dis tu sais quoi, je vais voir, parce qu'après tout
parce qu'en fait il y a encore du contenu challengeant. Ouais. Alors que dans Isaac, si tu recommences, Ouais, bah, tu recommences au début avec un build qui t'a déjà permis d'éclater la fin du jeu. Donc évidemment, le début du jeu.
Ouais. Non, mais et même en plus, c'est pas forcément gratuit parce qu'il y a, il peut y avoir un truc qui dit, bah, au final, en fait, quand tu vas atteindre en 10, bah, en fait, il va, tu vas gagner un joker en fait. Genre, tu vas débloquer un truc qui va. Et en fait, c'est pour ça que t'as le côté genre, t'as des succès Steam, mais t'as les sortes de succès.
Interne au jeu.
Interne au jeu caché, qui est le but, c'est de débloquer les jokers. Mais en fait, il faut. Et franchement, il y a des trucs, des fois. Je vois, la dernière fois, je sais plus, je sais pas si c'était Mister MV, je pense, qui dit, waouh, j'ai débloqué un truc hier soir, je vais enfin l'utiliser dans cette game. Il dit, par contre, pour le débloquer, ce joker, ouais, j'ai ramé, tu vois. Et là, tu dis, mais. J'ai regardé les conditions, je fais bah ouais, mais c'est.
J'y arriverai jamais.
Tu peux pas, si tu le regardes pas sur internet, tu sais pas qu'il existe ce truc.
Ouais,
genre,
tout à fait.
Mais c'est.
Mais il y a un gros bouton débloquer tout, hein. Parce qu'en fait, le développeur, justement, il s'en foutait, le développeur, d'avoir cette progression dans le jeu. C'est juste qu'il l'a mis parce qu'il sait que ça, ça amuse, en fait.
Mais c'est
ça.
Oui, mais ça reste intéressant. Et en plus, il y a aussi le côté. En fait, c'est ça, il y a le côté. Challenge et completionniste si t'as envie de le faire, comme le fait de bah, tiens, je fais avec je démarre avec le mode de main normal qui est que bah, t'as autant de mains à jouer que autant de défausses possibles. Après, le truc où t'as plus de mains, moins de défausses, plus de défausses, moins de mains, tu gagnes plus de l'argent. T'as ces trucs-là qui donnent des runs un petit peu.
Des variantes différentes de comment
t'as mis ta run. Mais comme tu dis, en fait, tu peux très bien jouer en mode normal, tu débloques tout et t'es juste de rouler, en fait.
C'est un bon jeu, en plus, pour revenir. Tiens, j'ai 5-10 minutes, je m'en refais une.
5-10 minutes, non, mais.
Oui, non, mais genre, tu peux le reprendre un mois après. Tiens, un jeu de chiottes, quoi.
Je dis coucou au Nicolas du montage qui va vraisemblablement jouer à Balatron en le montage, tu vois.
Là, heureusement qu'il est presque minuit, parce que sinon, là, je serais capable de rentrer chez moi et de me dire, franchement, je ferais bien une run là. Non, mais comme tu dis, c'est ça, c'est quand il est sorti, j'ai fait, bon, allez, vas-y, vous y avez joué, j'ai envie d'y jouer. Il donne envie, ce jeu, drogue.
Moi, je me suis couché à 2h du bar.
Non, mais c'est ça, j'ai enchaîné cash la soirée dessus. J'ai fait bon, ok. Après, pendant 3 jours, j'ai pas joué, tu vois. Je me suis dit, ah, mais tiens, ma hype, elle est passée. J'ai revu des vidéos, j'ai lancé cash.
Ma hype était un peu passée et ça fluctue en ce moment. J'ai envie d'y jouer, mais ça fluctue. J'ai tapé là ces textes-là en repensant à Balatro. Je me suis dit, faut que j'y joue. Oh, j'ai pas le temps là, mais j'ai trop envie d'y jouer.
Celui-là, s'il sort sur mobile, il fait un carton.
Il est déjà en train de faire la version iOS.
C'est comme des jeux comme Hearthstone, tu vois, qui sont des très bons jeux, mais en vrai, sur mobile, c'est...
Sur mobile, les chiottes, hein. Enfin, je veux dire, ton chef, il te voit plus. Non, voilà, alors moi, j'ai un tout petit bémol quand même.
Ouais, tu peux y aller.
La bande-son.
La bande son, elle est à jeter, mais à la limite, c'est pas très grave. Non, moi, je trouve que quand même, à un moment donné, on tourne un peu en rond sur la variété des builds, et je trouve le début de partie toujours un peu poussif, tu vois.
Ouais, voilà. Je suis bien d'accord.
Ça rejoint ce qui divine sur, c'est dur d'arriver à emballer un truc pour faire un build pété. Donc toi, en fait, au moment, tu retournes un peu dans ta zone de confort, tu dis, bah là, je sais comment un peu péter le truc.
Bah, je fais
si les étoiles s'alignent, voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, tu dis, bah, c'est répétitif, là. J'arrive pas à aligner un meilleur build ou un truc un peu qui.
Tout est moyen, différents mais moyens, et ça marche pas.
Voilà. Donc, et quand tu n'y arrives pas, tu dis, en fait, soit je suis con, soit j'ai pas de chance.
Ouais.
Peut-être les deux.
Mais c'est vrai que.
Moi, je me sens bête. Si au bout de 2-3 niveaux, j'ai pas touché des jokers qui marchent un peu ensemble, et je vois que ça marche pas. J'arrive pas à débloquer de l'argent. Hop là, c'est bon. Non, c'est pour l'argent, moi. C'est pour ça que je joue au poker.
Oui, c'est vrai. Donc voilà. Bon, ça reste un hit de début d'année. Et franchement, ça reste un super jeu. Je pense effectivement, comme tu te diras.
À son niveau, quoi. Pour un jeu à 15 balles, vraiment.
Voilà. Et le gars a dit que, en fait, l'évolution du jeu, ce serait des nouveaux jokers. Il y aurait pas de nouvelles mécaniques. Il y aurait pas de nouveaux modes de jeu. Mais par contre, l'évolution du jeu, ce sera potentiellement des nouveaux jokers. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va sortir, ce qu'il va trouver. Mais.
C'est ridicule, ouais.
Ouais, voilà, tu vois.
Et je t'avoue, en version mobile, il m'en sort un.
Ça serait peut-être, ça fait peut-être partie des premiers jeux que j'achète sur mobile.
Ouais, ça pourrait faire mal parce que de temps en temps, encore plus facile de le sortir. Tu te dis, bon, allez, une petite partie.
Non, c'est.
Donc voilà, ça s'appelle Balatro. T'avais fini?
Oui, j'ai fini.
Ça s'appelle Balatro. C'est donc pour 15 balles. Et sincèrement, ça vaudra tous les sous que vous mettrez dedans, même si, voilà, moi, je. Ouais, j'ai quand même un petit truc quand même.
C'est un
Gauthier de sa catégorie.
Ouais, par contre, oui, je pense qu'il sortira rien de mieux en deck builder cette année. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? Ce qu'on a dans le viseur, tout simplement. Et Vincent, comment ne pas démarrer cette rubrique dans le viseur
enfin
sans parler de
Manor Lord,
c'est pas vrai.
Il est là face à nous, il arrive. Maintenant, il faudrait pas qu'ils nous déçoivent, quoi.
Ouais, ouais. J'allais dire
ça.
Les attentes sont tellement hautes.
Ouais. Dans 15 jours, il va dire au
donc,
fait,
pour rappel, Manor Lord, qui sort donc le 26 avril en accès anticipé, qu'est-ce que c'est?
Tout le monde se dit, ouais, c'est quoi ce jeu de fou, là?
Non, mais c'est un espèce de RTS, gestion de un city builder.
Ouais.
À l'époque médiévale, ultra poussé avec énormément de mécaniques à l'intérieur.
On peut faire des châteaux?
Ben je sais pas exactement. Ah, je pense pas qu'on puisse faire des gros châteaux. Oh. Mais en tout cas, j'avais testé la démo, je m'étais régalé. Il y a plein de petites mécaniques super intelligentes. Suivre les évolutions que le dev apporte via, il communique énormément sur Twitter, c'est un bonheur. Il y a plein de détails qui me plaisent. Franchement, non, j'ai trop hâte, quoi.
Et notamment la killer feature, qui est de
ah ouais,
se mettre dans son...
Est-ce que c'est la killer feature? Je sais pas. Je vais pas trop en parler parce que ça peut... Mais en gros, on peut se mettre dans la peau du Lord, du coup,
bah ouais.
Et se promener
comme
dans la ville.
Theme Park World, là.
Comme dans Theme Park à l'époque,
c'est
quoi.
C'est pour ça qu'on
aïe, aïe, aïe. Ah, là, aïe. Ok, Will.
J'ai pas grand-chose. J'ai juste Prison Architect 2. J'avais pas joué au 1. Je me dis peut-être avec le 2, il est passé en 3D. Donc après, comme on dit, c'est les moves.
Ouais, ça passe ou ça casse.
Potentiellement casse.
Prison Architect, c'est dans la même lignée que RimWorld en termes de gestion. Et il y a.
RimWorld 3D
qui... qui s'appelle. Comment ça s'appelle? C'est pas Foundation, c'est.
Oui, celui qu'on a joué.
Non, tu as joué.
Si, j'ai joué.
Et ça marchait très très bien.
Oui, c'est vrai que ça marchait bien. Donc voilà.
Et en plus, une prison avec des miradors et tout, ça peut être
rigolo. Le 7 mai sur PC et PS5.
D'accord, très bien. John.
Moi, j'ai rien de spécial, mais je suis tombé sur un jeu. Je le ferai pas, mais c'est intéressant de le mettre en avant. En fait, ça s'appelle Tales of Kenzera.
Ah ouais, ouais.
Et en fait, c'est un Metroidvania. Vraiment, alors, franchement, quand tu regardes en clignant des yeux rapidement, tu te dis, attends, c'est un mode du dernier Prince of Persia ou quoi? Parce qu'en fait, ça, t'as un peu la même vibes, en fait, quand tu regardes.
Ouais.
En fait, c'est un Metroidvania sur fond de, c'est basé sur les mythologies et la culture des peuples bantous d'Afrique, je sais pas, je les
d'accord,
connais pas,
bah
je
écoute.
Voudrais pas déformer tout ça, mais en fait ils disent et surtout que le créateur du jeu c'est les issus de cette culture,
d'accord.
Donc ils disaient moi je veux mettre en avant la culture africaine.
Super.
Mais voilà, ça a l'air assez joli, voilà, assez original, mais enfin dans le lore. Même si, au niveau déroulement du jeu, franchement, t'as l'impression de revoir ce que...
Oui, des choses que t'as déjà vues mille fois dans des Metroidvania.
T'as l'impression que c'est mis Ori et mis...
Malheureusement, il arrive la même année que Prince of Persia, qui vient de... Tout le monde avait dit le Metroidvania, c'est mort, bon, on connaît. Bah, ouais. Arrive Prince of Persia, mais il y a quand même du potentiel.
Bah,
on refait un autre derrière qui ressemble.
Ouais, un peu
compliqué. Mais je crois que j'étais tombé dessus, mais en fait, il a l'air de pas coûter très cher déjà en préco. C'est pour ça, ça doit pas être un jeu qui a des grosses ambitions. Il a 18 balles, en fait.
D'accord.
Il sort bientôt, mais il a 18 balles, donc tu dis, bon, ça se voit qu'ils mettent pas c'est pas un triple A, qu'ils mettent en avant à 40
balles. Bien sûr, bien sûr.
Tu dis, bon, allez, pourquoi pas, on verra bien.
Ok, pour ma part, moi, j'ai deux jeux quand même. Alors, ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé de Top Spin 2K25, qui sort le 26 avril, parce
ah bon
que moi, ça
fait
quand même moi, c'est quand même une grosse attente, enfin, en espérant que ce soit chouette, bien
un
sûr.
Un jeu de 2K25. Début de l'année quasiment là.
Oui, alors c'est vrai, 2025, le 26 avril, ouais. Mais effectivement, en plus quand on avait parlé de Top Spin, on disait oh bah c'est cool, ça sera pour octobre-novembre. Bon, c'est dans un mois. Pour justement, on disait ça par rapport à la saison. En fait, c'est la saison du Grand Chelem qui démarre fort là, et du coup, ils le sortent à temps pour. Et le 26 avril aussi, Sandland, qui est un RPG qui est dans un univers qui avait été créé à l'époque par Toriyama.
Sandland.
Ah ouais. Ça doit être une œuvre qu'il a fait avant Dragon Ball, tu sais, et en fait, ils ont fait un RPG dessus. Alors, je pense que ça va être une sorte de Dragon Quest-like. En tout cas, ça a la gueule de Dragon Quest.
Comment tu l'appelles, celui-là ?
Sandland.
Sandland.
Sand comme le sable.
Donc, du coup, voilà. Mais bon, écoute, je le mets. Va savoir si c'est vraiment très bien, pourquoi pas. Mais j'ai un peu peur que ce soit un RPG japonais extrêmement classique. Voilà, de bonne facture.
Ouais, c'est juste parce que c'est Toriyama, t'as envie de voir.
Et puis c'est joli, ouais. Franchement, c'est une bonne tête quand même, tu vois. Mais non, là, je monte juste mon Google Doc. Mais
franchement,
c'est
une bonne tête.
Mais voilà, non, c'est quand même pas si mal. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Je peux pas, j'ai piscine. Alors, je peux pas, j'ai piscine. Qu'est-ce qu'on a fait quand on n'était pas devant les jeux vidéo ?
J'ai lu un manga pour changer.
Non.
Et là, je me suis mis sur My Hero Academia. Alors,
ah bah oui.
J'avais commencé par l'animé, que sont pas toches. J'ai essayé de reprendre l'animé après la pause qu'il y a eu. J'ai pas réussi. Ça commence par un filler avec une course dans la piscine.
C'est trop. C'est voilà. Trop pour toi.
Donc, je me dis, je vais me lancer au manga. Ouais, sur le manga, qui est plutôt sympa au début. Après, c'était My Hero Academia. Ça fait un peu vraiment lycée et tout.
Oui.
Hein?
Après, non.
Voilà. Non, après, au milieu, il y a des mangas filler. C'est la première fois que je vois ça dans des mangas où il y a deux tomes entiers, où ça parle d'un concert dans le lycée. Je les ai passés sans les lire, ça ne sert à rien.
Ouais.
Autant qu'il y ait des fillers dans les animés, j'ai déjà vu, mais dans des mangas, c'est la première fois que je vois
ça. Ça correspond bien à la vibe petite école.
Ouais, mais
attention, je dis pas que c'est
un tome entier sur un concert. Ouais, on est amis avec la seconde B parce qu'on va faire un concert. Parce que regarde, je t'ai appris à comment mieux utiliser ta guitare. Voilà, j'ai pété un plomb, quoi, donc je laisse passer. Mais par contre, après, ça vrille d'une force
les méchants qui arrivent, ils sont très méchants.
Et les mecs du lycée, en fait, deviennent trop forts. Et c'est un des seuls mangas, et j'aime bien le move, où tu suis l'évolution de la classe, de ton académie, de ta seconde. Tu comprends que cette promo, elle est quand même forte.
Ouais.
Et en même temps, tu suis l'évolution des méchants.
D'accord.
C'est-à-dire que t'as vraiment les méchants qui, au départ, sont des petites frappes, tu vois, qui essaient d'attaquer et qui font pas grand-chose. Et en même temps, eux aussi, de leur côté, ils montent en puissance.
Ouais, ouais.
Et c'est pas comme dans les différents mangas où t'as un arc avec des méchants différents à chaque fois. Là, t'as ce même groupe de méchants et qui aussi prend en puissance. Et t'as vraiment il y a tout un arc où tu vois le méchant.
Ouais. Donc,
là, il prend un gros step-up, tu comprends pourquoi et tu suis toute son histoire. Tu vois pas, t'entends pas parler du lycée pendant 3-4 tomes, quoi. Juste parce que t'es sur leur phase à eux quand ils vont attaquer d'autres méchants et ils montent en puissance. Et là, ça part en couille de...
C'est fini ou pas?
Non, c'est pas fini. J'espère que ça va bientôt finir parce que je pense qu'on est sur ça monte en puissance.
Ouais,
les deux
donné,
là, ils sont en train de se taper, donc j'espère que dans 4-5 tomes, ils ont fini de se taper et ça va être fini.
Ah ouais, Maman, il est en train de se taper contre.
Ouais. Et c'est. Ouais, non, ça tape fort. Je pensais pas que ça montrait autant en puissance. Je pensais que ça mettrait trop de
My
temps.
Hero My Hero Academia. En plus, c'est dispo à Carouf parce que
ah oui,
du coup, c'est extrêmement. John!
Moi, j'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle Le Cercle des Neiges. Vous connaissez ?
Non.
Non, je vais vous lire le résumé. En octobre 1972, le vol Uruguaya 571 transportant une équipe de rugby uruguayenne au Chili, l'appareil avec 45 passagers s'écrase dans la cordillère des Andes. Les survivants, bloqués dans un environnement très hostile, doivent prendre des mesures extrêmes pour survivre. Donc c'est basé sur une histoire connue, réelle, basée sur une équipe de rugby et leurs proches qui sont écrasés dans la cordillère des Andes, qui ont pendant un bon moment, parce qu'à ce moment-là, c'était encore l'hiver, et les mesures extrêmes pour survivre, c'est un fait connu, mais c'est que les mecs ont dû manger les morts, en fait, pour survivre. Et alors, le film est... Très très bien. Déjà en plus c'est un film uruguayen en plus américain-uruguayen, donc au moins ils ont pris des vrais acteurs de là-bas. Et
c'est pas Harrison Ford as joueur de rugby
uruguayen.
Non mais et en plus l'histoire je la connaissais de loin, mais et là en fait déjà c'est vachement bien joué et c'est pas trop dans le sens sas, tu vois.
Ouais.
Alors, je suis sûr qu'il doit déjà exister un film américain sur ça à l'origine,
oui,
où les mecs sont là, regardez, genre, écrit dans tous les sens. Là, voilà, ils te montrent pas les mecs, très rarement vite fait, un mec qui est en train d'essayer de bouffer, ils ont découpé de la viande surgelée, congelée des morts. Bon, ils sont en train de la manger.
Ouais.
Non, ça gère pas mal. Et en fait, ça te met, c'est pas un film drôle, mais ça te met une ambiance. Tu dis, waouh, ça fout des feelings bizarres, mais
ma sœur, elle a regardé ça parce qu'elle est allée en Uruguay et compagnie, elle a fait l'Amérique du Sud.
Ouais.
Elle a regardé ça en disant, ah super, un film uruguayen.
C'est pas un film joyeux, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais il est très très bien. Franchement,
d'accord.
Beaucoup aimé.
Je crois qu'il est...
Ah, c'est un film, c'est pas une série.
Ouais, c'est un film.
Pour ceux qui ont une série.
Et ben justement, j'allais parler d'une série Netflix, figurez-vous, qui s'appelle Le problème à trois corps, du coup.
Ah, t'as déjà regardé ?
Alors, j'ai regardé que le premier, donc ça sera un avis vraiment très peu définitif. Donc, moi, j'ai lu le bouquin. Voilà, c'est rare, mais.
Le mec, il sait lire.
Et en fait, dans le bouquin, si tu veux, ils font pas exactement pareil. Non, et je trouve que c'est assez fidèle de ce que j'en ai vu. J'ai retrouvé les scènes comme je les avais plus ou moins imaginées et tout. Donc, pour l'instant, c'est fidèle. Alors, il paraît qu'après, ça va commencer un peu à s'éloigner du bouquin. Et en même temps, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, je veux pas, vraiment, pour le coup, je veux pas spoiler parce que c'est vraiment une série qui, déjà, a pas mal de plot twists. Et puis surtout, en fait, pendant en tout cas pendant tout le livre, tu te demandes un peu bon bah qui, enfin où est-ce que ça veut en venir ce bordel quoi, tu vois. Et du coup bah voilà, je vais pas trop spoiler, mais en somme, il y a c'est en fait c'est en parallèle entre la révolution rouge, alors je sais pas, tu dois savoir, la révolution culturelle en Chine, ouais c'est ça, voilà, donc il y a des événements qui se passent là dans, donc dans, et des événements qui se passent dans le monde actuel. Les scientifiques ont fait une découverte qui fait que ils se suicident tous, voilà, donc
les scientifiques se suicident
voilà,
okay. Et ouais, ils font la découverte, ils se suicident.
Bah ils font une découverte et bah et à un moment ils se suicident après, ouais voilà, et du coup bah on se demande un peu pourquoi, enfin les scientifiques et d'autres, mais c'est vrai que voilà les scientifiques sont pas mal touchés. Et dans le passé bah on suit une jeune fille, son père était prof de physique, de physique ou de chimie ou je sais plus, à l'université. Il se fait tabasser parce que il veut absolument apprendre les principes qu'il a toujours appris, parce que voilà, mais sauf que à ce moment-là la Chine rejette en masse les règles de la physique, de la physique élémentaire, et du coup bah, lui qui veut continuer à les apprendre parce que c'est ça la vérité, il se fait buter. Et elle en fait ça reste une physicienne brillante, et du coup elle va être emprisonnée, et en même temps pas emprisonnée puisqu'elle va travailler dans un centre de recherche, mais sauf que bah, personne veut trop lui dire sur quoi ils sont en train de chercher. Et alors ça se débloque très vite puisqu'à la fin du premier épisode on sait, enfin tout ça se débloque, mais je vous le dis pas, oui
dans,
et non.
Dans
oui.
Le 1, il bosse sur le problème à deux corps.
Ouais.
Dans le...
Mais il est pas en fait, ça va très vite, il est super simple. Ouais,
oui,
voilà,
mais c'est deux corps, voilà, tu modélises le truc, c'est voilà, bon, t'as c'est compris.
Ça. Non, alors le problème à trois corps, si vous voulez savoir ce que c'est un problème de chimie ou en fait, de physique, pardon, où en fait, quand t'as trois corps, donc, dans l'espace qui cohabitent, en fait, ils trouvent jamais un point d'équilibre, tu sais, avec la gravité, etc. Et du coup, en fait, ils finissent par tourner jusqu'à ce qu'il y en ait qui s'échappent. Et en fait, on ne sait pas le problème, entre guillemets, à trois corps, c'est de ne pas savoir comment avoir ce point de truc. Bah, ça spoil pas hein, de dire
non,
ça.
Non, c'est un vrai truc de physique.
Mais c'est un vrai truc de physique.
Mais c'est un truc
voilà.
Que tu peux pas modéliser et prédire, en fait.
Voilà, c'est ça, tu peux pas le prédire. Et, mais par contre, ça s'injecte un petit peu dans la série prédire, et dans le film. Bon. Et donc voilà, donc le premier épisode est de bonne facture, il a une bonne gueule. Moi, j'avais peur que ce soit ultra cheapos parce que c'est de la science-fiction. C'est un peu de la hard SF, hein, c'est-à-dire que c'est de la SF, mais qui essaie d'être au plus proche de la réalité.
Mais... c'est bizarre que tu penses à ça parce qu'il a vraiment été vendu et survendu comme étant la grosse série de SF qui arrivait là.
Ben oui, je sais, mais en fait, c'est exactement ce que disait Marie. Je disais, c'est marrant parce qu'ils le vendent vraiment comme un truc avec des effets spéciaux dans tout. Ouais. Et en fait, non, pas du tout.
La
c'est vraiment
série
terre à terre.
De la rentrée, ouais.
Il va y avoir des effets spéciaux plus tard dans la série.
S'il y a pas de dragon, j'en garde pas.
Ouais, mais après, Vincent, la CD.
Depuis qu'on va parler de Skyrim, c'est dragon.
Ouais,
dragon.
Ouais, ce qu'on compte.
Tu retournes
dans
Game of Thrones.
Non, mais voilà, pour le coup, c'est chouette. Ça va un peu, on va un peu se prendre la tête après quand il va falloir que, enfin, voilà, que.
S'il faut sauter pour toi, je saute, Nico.
Ouais, bah, écoute. Mais voilà. Mais en tout cas, non, franchement, pour l'instant, je suis assez content de la série. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer.
Moi, j'ai rien de spécial, si ce n'est que je voudrais regarder la série Shogun. Vous avez
mais
regardé.
Mais oui, bah, moi aussi.
J'ai vu,
je l'ai là.
J'ai vu deux épisodes. C'est très cool. Mais c'est marrant parce que quand je l'ai regardé, j'ai discuté, j'ai dit je comprends quand même toujours pas ce que je regarde. Non, je comprends le fond, mais il y a des choses je comprends pas. Il y a des enjeux
politiques.
Je regarde
en VO sans sous-titres peut-être.
Et ouais, c'est ça
non,
le problème.
Ça, c'est comme Game of Thrones, les premières saisons que j'avais regardé en anglais, j'ai dû les refaire en français pour
plein.
Non mais
il y a
plein. Et ben moi aussi, Game of Thrones, je l'ai regardé en français.
Ah
la
ouais, non mais il y a
fois,
plein, plein, plein de
personnages, plein de personnages, des enjeux.
Désolé d'être bête, Vincent. Désolé de pas être aussi intelligent.
Non mais ça, il y a plein de personnages, des enjeux politiques, des trucs que tu comprends pas sur fond de quoi. Tu dis bah là, je sais toujours pas où ils en sont en fait. Épisode 2, bon ben je vais enchaîner.
Non mais en fait, moi
c'est très bien joué.
C'est prévu pour quand le dernier épisode de la sortie?
Ah je sais pas, je sais même pas comment ils en sont. Je crois qu'ils en sont à 6 là.
Bah c'est pour moi, j'attends que tout soit sorti pour m'y mettre.
Et comme ça, tu
c'est deux par semaine, je crois. Donc, en fait, à mon avis, cette semaine, c'est terminé.
Ouais, tout à fait. OK, merci beaucoup, les amis, d'avoir
merci à toi,
participé.
Nicolas.
Oh non, vous êtes bêtes.
Là,
moi, je fais vraiment
fort.
Ça pour le plaisir. Hein. Merci d'avoir participé à cet épisode 65. Ah ouais, oui, c'est vrai que ça va pas être une musique très joyeuse, mais non,
l'ambiance,
mais,
quoi.
Voilà, mais si c'était ça ou Balatro.
C'est un Balatro,
hein. Donc, moi, j'ai aucun souci. Ou Last Friday Night, de
Katy Perry. Ah oui, non, ouais, c'est un striking.
Ouais, complètement. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'on est là toutes les deux semaines. On fait une super série en ce moment de Super Sport 3000 sur les sports des JO 2024. On a sorti
le surf
là dernièrement, voilà, qui était très très chouette entre polémique et aussi le sport à proprement parler. C'est un sport pour lequel on a des chances de médailles. Ouais. Donc voilà, mais on explique tout dans le podcast Supersport 3000. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux @coopecanap sur Twitter, Facebook, YouTube aussi, dans lequel on met des petits shorts avec des petits extraits de nous en train de parler. Donc bon,
enfin, on va essayer.
On va essayer. Voilà, c'est ça. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, jouez à plein de choses et surtout amusez-vous. Salut tout le monde.
Ciao.